RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la route du Tour, toujours aussi ensoleillée depuis le départ, il y a presque deux semaines maintenant, de la Corse. Pas un nuage, pas une goutte de pluie. Et oui, c'est vrai, on n'y croit pas. Et pourtant, c'est bien la vérité. Le Tour de France a attendu que le soleil revienne pour s'élancer de Corse. Et on espère évidemment que cela va durer encore 10-12 jours jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées. Ce ne sera pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Nous sommes donc en deuxième semaine de Tour de France et nous attaquons les traditionnelles étapes de transition. Transition entre évidemment les grandes étapes des Pyrénées, l'étape de contre-la-montre qui a eu lieu hier et dont on pourra tirer les enseignements dans quelques minutes. Et puis évidemment les grandes étapes de montagne, les Alpes qui nous attendent à partir de dimanche et notamment cette ascension du Mont Ventoux qui marquera l'entrée dans les Alpes. Ce sera dimanche 14 juillet, on va se régaler dimanche. En attendant, c'est vrai, ce parcours sera plutôt plat aujourd'hui, demain et après-demain, même si l'étape qui nous amènera à Lyon samedi sera tout de même un peu plus vallonnée que celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et nous allons voir un petit peu qui peut profiter de ces étapes de transition. Ils sont là avec moi, fidèles au poste évidemment. J'ai nommé Frédéric Adam qui est à mes côtés. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Cyril Guimard, le druide, qui est avec nous de haut de sa tribune. Salut Cyril.
Oui, salut Christophe, salut Fred, salut à tous.
Et puis on verra, mais on n'a pas de moto aujourd'hui. La moto est en rade. Elle va revenir, vous inquiétez pas, dès demain elle sera là avec Marco. Du coup on a rangé notre ami Georges dans la voiture de Luc Leblanc. Ils sont bien, ils s'arrêtent pour tous les sandwichs tous les deux. Ils sont magiques. Ça va Georges, ça se passe bien avec Lucho? Il conduit pas trop vite?
Salut Christophe. Non, ça va pour l'instant. La moto 543 est non partante. C'est ce qu'a annoncé ce matin Jean-François Pécheux au départ de l'étape. Moto 543 pilotée par Marc Comp. L'humiliation totale. Et du coup, ben oui, obligé de se retrouver avec Luc Leblanc dans la voiture. Hein. Ça va, Lucho?
Ah ben oui, hein, ça va très très bien. C'est bien obligé de venir avec moi. Je te pilote, mais c'est passé une belle journée quand même, non? C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de sandwichs pour Lucho sur le bord de la route.
Hein. Ah oui, il a jamais de sandwich.
Aiguillettes de canard. Petites aiguillettes de canard en relais étape. En fait, c'est facile le tour de Luc Leblanc. Hein.
Ah ouais, c'est pas la même chose que sur la moto RMC avec les bouteilles d'eau tiède toute la journée et on peut même pas s'arrêter pour manger un morceau là. C'est vrai que aujourd'hui c'est grand luxe pour Georges Quirino. Georges.
Bah bon... oui, c'est grand luxe pour Georges,
ouais.
Bien sûr.
Bah oui, évidemment d'être dans la voiture de Lucho.
J'ai des aiguillettes de canard, mais elles ont été froides à l'arrivée en fait.
Bon, tu as récupéré ta voix, Lucho, parce qu'hier il nous a fait quand même un concert extraordinaire. Hein, on tient d'ailleurs à remercier.
Oui.
On tient tout de suite à remercier Hervé Mangias, le frère de Daniel Mangias, qui était une personnalité du Tour de France. Les deux frères, vous savez, sont connus comme le Loup Blanc. Et nous nous sommes arrêtés hier dans sa maison, dans sa magnifique maison normande, et on a été accueillis comme des rois et on a pu entendre les chansons
génial, hein.
De Luc Leblanc. C'était quand même quelque chose. Tu nous pousseras la chansonnette tout à l'heure, hein, je sais plus ce que tu nous as chanté.
Le bol d'or des monnaies.
Le bol d'or.
Non, Bruyère
Corrézienne. Puis on écoutera également Georges Quirino pour Nissa Labella. Hein, Nissa Labella.
Attention, parce que sinon on va commencer à sortir les dossiers sur tout le monde.
Voilà, et puis alors en revanche, il y en a un qui ne pourra pas chanter aujourd'hui. Et oui, les chanteurs bretons sont fragiles, il faut le savoir. Ils ont le timbre et les cordes vocales un peu fragiles. Tiens, on va voir d'ailleurs si ça va mieux aujourd'hui. Pierre-Yves Leroux, qui est passé par la Bretagne, ça ne lui a pas réussi. Bonjour Pierre-Yves.
Il a bluffé,
il nous a dit qu'il avait plus de voix depuis ce matin. Ça va Pierre-Yves? Tout va bien.
Très bien, mais oui.
Ah oui, c'est bien. Oui. Ah, les substances que je t'ai
exactement.
Données t'ont servi. Hein.
C'est efficace.
Eh oui, non, mais ouais. Attends, on suit le peloton.
Je vais pas passer au contrôle antidopage, par contre.
Très bien. Bon, c'est parfait. Tout le monde est en place, sauf Marco. Mais Marco, depuis qu'il a pris une fenêtre en pleine face, il a un peu de mal à récupérer. On verra tout à l'heure si la moto parvient à rejoindre Tours. On va s'intéresser à la course, évidemment. Vous êtes là pour écouter la course et non pas nos élucubrations. Fred est en place. Il est en pleine forme. Ça tombe bien. C'est le top course. Le premier de la journée.
RMC Top Course.
Avec une étape qui a tout effectivement de transition aujourd'hui entre Ille-et-Vilaine et Indre-et-Loire. Effectivement, il faut bien s'adonner à une diagonale vers le sud-ouest pour rallier le pied des Alpes. Dimanche, ce sera le Mont Ventoux. Mais en attendant, effectivement, on traverse la France depuis le nord-ouest vers le Vaucluse. Et donc, cet après-midi, arrêt à Tours avec 218 km au menu sans aucune difficulté. Et alors que les coureurs sont désormais à 78 km de l'arrivée ici, eh bien, ils sont 5 à l'avant, 5 coureurs échappés depuis le 4e kilomètre. Il y a là deux Français, Romain Sicard, le jeune coureur de l'équipe Euskaltel, Anthony Delaplace, encore plus jeune, coureur de l'équipe Sojasun, l'expérimenté espagnol Juan Antonio Flecha, et deux Italiens, Manuele Mori, 33 ans, qui découvre le Tour de France, et Francesco Gavazzi, l'Italien de l'équipe Astana, qui est à l'origine de cette échappée. Leur avance tout à l'heure a culminé à près de 10 minutes, mais depuis que les équipes de sprinteurs à 100 km de l'arrivée ont pris le manche, l'écart ne cesse de fondre. On roule très très vite. Les deux premières heures de course ont été accomplies à plus de 46 km/h de moyenne. Dernier pointage à 77 km de l'arrivée, 4 minutes 40 seulement pour les 5 fuyards. Ce sont les Lotto Bellisol, les Omega Pharma et les Argos, autant dire les formations de Greipel, de Cavendish et de Kittel, qui veulent amener leurs sprinteurs dans les premières positions ici à Tours. C'est vrai que l'arrivée semble taillée pour les bolides des derniers kilomètres.
Le scénario est donc immuable depuis le début de ce Tour de France. Une échappée qui se forme dès les premiers kilomètres, une échappée contrôlée par les équipes de sprinteurs, les écarts qui ne montent jamais au-delà des 6, 8, 10 minutes, hein, maxi, je
10
crois.
Minutes aujourd'hui, hein,
10
oui.
minutes aujourd'hui. Mmh. Et ensuite, on revient tranquillement et on garde les échappées à distance pour pouvoir mieux les croquer en fin d'étape. On a l'impression que ce scénario sera le même jusqu'à l'arrivée à Paris, Cyril. Même si on sait qu'en troisième semaine, il y a peut-être plus de coups à jouer, mais c'est vrai que les deux premières semaines, c'est toujours la même situation. Il faut un miracle, hein, pour que les échappées arrivent au bout. Et il y a de moins en moins de miracles sur la route du Tour.
Oui, c'est vrai, de moins en moins de miracles, mais parce que l'organisation des différentes équipes est de plus en plus pointue, et surtout, il y a toujours plusieurs équipes qui vont avoir à un moment donné l'intérêt de rouler ensemble pour revenir sur l'échappée, à tel point que l'on laisse systématiquement partir la première échappée. Les premiers coureurs qui veulent partir, eh bien, il n'y a pas de problème, on les laisse. On les laisse prendre un certain nombre de kilomètres. Ensuite, eh bien, on va mettre en place un tempo qui, en toute logique, doit permettre au peloton de revenir dans les 5 derniers kilomètres sur les fuyards. C'est ce qui s'est passé sur l'étape de Saint-Malo. C'est ce qui s'est passé pratiquement sur toutes les étapes où il pouvait y avoir... Bon, la Corse était un petit peu différent parce que on avait des parcours qui n'étaient pas plats et où il n'y avait pas de ligne droite non plus. Mais là, lorsqu'on tombe sur des parcours comme celui d'aujourd'hui, eh bien, le scénario est immuable.
On a eu la Corse qui était particulière. On a eu également l'étape d'Albi avec ce fameux coup de Trafalgar des Cannondale de Peter Sagan, qui avait profité de la traversée de la montagne noir pour éjecter des sprinteurs à l'arrière. Victoire du maillot vert Peter Sagan. On a quand même eu l'impression, Cyril, que en cette première moitié de Tour de France, la course a été plus animée avec davantage de suspense que les années passées.
Oui, tout à fait. Mais cela est dû effectivement à la Corse, hein, la Corse qui a bouleversé complètement les habitudes de chacun, y compris des équipes. Et c'est vrai qu'on n'était jamais parti de Corse, donc on ne pouvait pas avoir d'historique. Mais c'est vrai que la Corse a modifié en grande partie, plus un contre-la-montre par équipe lorsqu'on est revenu sur le continent à Nice. Alors la course a été un petit peu différente parce qu'on a cette Corse, on va dire, semi-montagneuse, puis qu'on a eu les deux grosses étapes aussi sur les Pyrénées. Et c'est vrai que l'étape d'Albi était non pas de moyenne montagne, on va dire de petite montagne, mais dans la mesure où les Cannondale avaient choisi de frapper fort pour permettre à Sagan de remporter une étape, parce que face au grand sprinter, il est souvent barré et termine, d'ailleurs il a terminé trois fois second derrière ces grands sprinters. Donc ce jour-là, il avait l'occasion de les faire exploser. C'est ce qu'il a fait intelligemment, mais surtout aussi parce que son équipe a été monstrueuse ce jour-là. Ils avaient tous une motivation extrême et une confiance surtout en Peter Sagan. Mais aujourd'hui, il faut bien le dire, aucune difficulté, à part le vent, mais le vent en plus là, il est plutôt favorable de nord-est, qui explique les moyennes élevées. Mais ça nous permettra, ou ça permettra aux coureurs d'avoir peut-être plus de repos ce soir.
Et oui, parce qu'ils vont arriver tôt, ils roulent très vite, hein, les coureurs depuis le début de cette étape. Je crois qu'il y a une moyenne à plus de 45 km/h depuis le début, ce qui va nous donner une arrivée avant 17h probablement. Et donc, plus on arrive tôt, plus on a le temps d'aller au massage, de récupérer, de manger tôt et de se coucher tôt. C'est important, Cyril. Cyril, ça aussi, hein, pour les coureurs du Tour de France. La récupération, surtout après après une moitié de Tour de France, les minutes sont quasiment comptées.
C'est la clé. Hein. Mm-hmm. La clé, c'est la récupération, parce qu'on connaît les niveaux de chacun, mais celui qui a le moindre petit problème qui va perturber sa récupération, c'est-à-dire son sommeil, qui va perturber, par exemple, les séances de massage. Vous savez, un coureur qui a chuté et qui est brûlé de partout sur les cuisses ou sur les mollets, ça veut dire que c'est du massage en moins, parce qu'on peut pas masser sur une blessure. Donc, un massage en moins, ça veut dire aussi un soin en moins, une récupération en moins sur le plan musculaire. Donc, les problèmes digestifs sont également très importants, et on a tous sur le Tour de France une fragilité sur le plan digestif, parce que on boit 8 à 10 litres d'eau par jour, enfin pendant la course.
8 à 10 litres par jour sur les
Ah bah s'il fait chaud comme ça, ouais. S'il fait chaud sur une épreuve de 5 heures, si vous prenez tout ce qui est bu entre le moment où vous descendez du bus et le moment où vous allez remonter dans le bus après l'étape, oui, vous êtes pratiquement à 8 litres si vous êtes sur des températures, on va dire au-dessus entre 25 et 35 degrés, quoi. Mmh. Donc, mais il le faut, parce que la déshydratation, vous ne pouvez pas rentrer dans le cycle de la déshydratation, donc il faut boire en permanence par rapport à vos pertes hydriques.
Voilà, et d'ailleurs, on voit en ce moment sur nos écrans de contrôle, Cyril, ce qu'on appelle les porteurs d'eau, hein. C'est pas péjoratif, les grégarios, c'est-à-dire les équipiers qui descendent à l'arrière du peloton, descendent aux voitures des directeurs sportifs et font le plein de bidons, ils les mettent sous leur maillot, sur leur combinaison, et ils remontent ensuite tout ça vers leur leader. C'est un vrai métier, ça, un porteur d'eau.
C'est un vrai métier, mais
indispensable.
Tout le monde, c'est indispensable, et les coureurs se relaient pour aller chercher.
Ouais, c'est-à-dire que les leaders aussi peuvent s'y mettre, peuvent aller chercher. Bah, les
si, vous savez, lorsqu'ils s'arrêtent, parce qu'à certains moments les coureurs s'arrêtent faire un besoin qu'on va appeler naturel. Bon, quand ils repassent à côté de la voiture du directeur sportif, ils prennent, chacun prend deux ou trois bidons, et ça va faire, on va dire, le réservoir pour l'heure qui suit. Tout le monde a cette tâche à faire en fonction des circonstances de course. Vous descendez en queue de peloton, le directeur va monter, le directeur sportif va monter à votre hauteur. Systématiquement, vous allez prendre des bidons.
Bon, alors, on boit 10 litres par jour. Il faut s'arrêter souvent, disons, sur le bord de la route, Cyril.
Non, puisque les 10 litres que vous avez, alors peut-être pas 10 litres, mais 7 ou 8 litres, si vous voulez, mais je veux dire, en fonction de la température. Si vous avez une température à 14 degrés, vous pouvez diviser par deux, hein, faut le savoir. Non, c'est ce que vous perdez en sudation.
Bien sûr, bien sûr.
Et en fait, vous n'avez pas beaucoup plus de besoin. Là où vous vous arrêtez, alors c'est assez bien, là où vous vous arrêtez le plus pour vos besoins naturels, c'est quand il fait froid. Parce que là, vous avez un refroidissement naturel par l'air. Si vous roulez dans des températures à 7-8 degrés, voire moins, jusqu'à 10 degrés, le refroidissement par l'air est tel que vos réflexes thermiques, donc pour lutter contre l'augmentation de votre température qui est produite par l'effet de l'effort physique, eh bien, est plus contrecarré par votre sudation, est plus contrecarré par le vent froid que par votre sudation. Mmh. Alors que là, lorsque vous êtes, imaginez que vous rouliez à 37 sous une température de 37 degrés, ce qui arrive, ce qui est votre température de corps, c'est-à-dire que là, il n'y a que la sudation. J'ai bien que la sudation qui va pouvoir remplir la capacité à refroidir le corps.
Ah, il est fort, ce docteur Guimard, le druide.
Vous voulez que je vous raconte une histoire?
Ah bah oui, bah on aime bien les histoires de tonton Cyril.
Vous savez qu'en 1977, à cette époque-là, il était interdit de se ravitailler en dehors du poste de ravitaillement de cours. C'est-à-dire que vous partiez avec deux bidons, vous alliez chercher deux bidons, enfin, quand vous passiez au contrôle de ravitaillement, et si vous vous ravitailliez en dehors de ces zones, vous pouviez être mis hors course.
Ah oui, il fallait pas rater le ravitaillement.
Et d'ailleurs, moi, j'ai été mis une fois hors course, c'était un championnat du monde, parce que j'avais pris une boisson en dehors du poste de ravitaillement, voilà. Et Gilbert Bellone, d'ailleurs, qui avait terminé sixième de ce championnat du monde, a été lui aussi déclassé parce que il avait pris une boisson en dehors de bon. Et ce qui existe aujourd'hui, eh bien, c'est grâce au CHU de Nantes avec le professeur Ginet et l'équipe Renault Gitane de l'époque, où on a fait des tests de perte hydrique. et on l'avait fait dans la région du Temple de Bretagne, bah, là où j'habitais à l'époque, avec toute l'équipe, donc Bernard Hinault, Bernard Kilfen, et on avait tout le CHU de Nantes qui s'était mis, qui avait mis à disposition tous les étudiants, et chaque coureur était suivi du matin au réveil jusqu'au moment où il allait se coucher, tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait au petit déjeuner dans toute la journée, et le coureur devait noter ce qu'il faisait la nuit. Et donc on est arrivé à trouver un certain nombre de paramètres, on a objectivé exactement quelles étaient les pertes, et on avait fait cette sortie de 170 km, on l'avait fait par 17 degrés, donc après on pouvait faire des... Et c'est à partir de ce moment là qu'il y a eu un rapport qui a été fait, que moi j'avais amené à la Commission nationale du cyclisme professionnel, en disant vous devez modifier le règlement, si jamais vous avez un accident ce sera de votre faute, parce que voilà ce qui se passe.
Bien sûr. Et donc du coup maintenant on a le droit
de derrière, ça a été un tollé, la Commission nationale. Comment on va plus rien maîtriser, etc. Si vous pouvez maîtriser éventuellement les accidents. Mais... les accidents liés à la déshydratation, parce que vous savez, vous avez beaucoup d'images dans la presse de l'époque et d'après-guerre et même d'avant-guerre, où tout le monde s'arrêtait dans les cafés, dévalisait les cafés pour prendre des boissons. Ça, c'était autorisé, mais il fallait prouver qu'éventuellement vous pouviez payer. Bon, ça a disparu aujourd'hui.
Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus. On n'a plus le temps de s'arrêter au café.
Des fois, même
les suiveurs n'ont plus le temps de s'arrêter au café. Même à part Lucho, les suiveurs n'ont plus le temps de s'arrêter au café. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait quand même quelques journalistes et qui arrivaient à l'étape, Fredo, un peu éméché quand même.
Oui, mais qui
écrivaient, qui avaient des plumes magnifiques,
exactement,
encore embellies par le...
qui donnaient leur meilleure production lorsqu'ils étaient un peu avinés, il faut bien le dire.
Antoine Blondin, évidemment, était plus connu.
Avec le plus grand respect.
Lorsqu'il prenait les ribines, les voix à 4 grammes, ça.
Antoine Blondin n'était pas le seul à faire de joyeuses haltes, mais quelle plume et quel talent il alimentait par voix hydrique.
Alors justement, aujourd'hui, Fred, c'est plus interdit, parce que là, la gendarmerie fait bonne garde. Je peux vous dire que ça souffle dans les ballons et ça ne rigole plus du tout.
Sauf que j'ai jamais vu Antoine Blondin au volant, ni Pierre Chani.
Oui, c'est ça. Ils
avaient un chauffeur.
Un chauffeur qui, lui, restait au volant de la voiture pendant que ses joyeux drilles allaient dans les cafés se réhydrater.
Il ne manquait pas d'humour, c'est vrai.
Évidemment. Allez, 15h23, on va faire un nouveau point sur la course, parce qu'avec tout ça, on en oubliera presque qu'il y a une course. Une course en direction de Tours aujourd'hui pour cette 12e étape. Il reste quasiment 70 km, un peu moins de 70 km même, à parcourir. Top course avec Fred.
RMC Top Course.
Avec effectivement une arrivée à Tours aujourd'hui en Indre-et-Loire, mais pas du tout sur l'avenue de Gramont, lieu mythique de l'arrivée de la classique des feuilles mortes Paris-Tours, puisque l'avenue de Gramont est depuis quelques années maintenant en travaux pour l'installation du tramway à Tours. Ce sera une arrivée pour sprinteurs bien sûr, mais avec un demi-tour à 700 mètres de la ligne. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, ce sont les échappés qui se mettent en évidence à 68 km de l'arrivée. Ils sont toujours 5. Deux Français, les jeunes Romain Sicard et Anthony Delaplace. L'Espagnol Juan Antonio Flecha, beaucoup moins jeune que ces deux-là, 35 ans, qui en est à son 10e Tour de France. Et les Italiens Manuele Mori et Francesco Gavazzi. Gavazzi, l'Italien de l'équipe Astana, qui est à l'initiative de cette échappée à 68 km de l'arrivée dans la campagne du Maine-et-Loire en ce moment. C'est tout droit au milieu des champs, sous le soleil. 68 km de l'arrivée, 4 minutes 15, dernier pointage pour les 5 fuyards sur un peloton évidemment emmené par les sprinteurs qui pour l'instant gèrent cette avance.
15h24, vous écoutez RMC, l'intégral tour jusqu'à 18h évidemment pour cette 12e étape du Tour de France. On y revient dans un instant avec toute l'équipe de l'intégral tour, toute la Dream Team, à tout de suite.
RMC, intégral tour avec le Parisien et aujourd'hui en France. Christophe Cessieux.
Nous sommes dans la 12e étape de ce Tour de France, étape de transition aujourd'hui. Les coureurs entament la diagonale, non pas la diagonale des fous, la diagonale qui les conduit du nord-ouest de la France vers le sud-est que nous aborderons dès dimanche 14 juillet, avec notamment cette étape qui nous fait saliver d'avance, et l'ascension du Mont Ventoux, le Mont Chauve de Provence, le géant de Provence, qui va évidemment sans doute donner lieu à la grande bagarre. Et puis évidemment la dernière semaine
semaine sera probablement la plus excitante, même si, il faut bien le dire, Chris Froome nous a un peu cassé le jouet hier et lors de la première étape en montagne dans les Pyrénées. Chris Froome qui possède, vous le savez, 3 minutes 25 d'avance sur son premier dauphin, l'Espagnol Alejandro Valverde. Chris Froome qui a fait fort, qui a frappé, qui a marqué les esprits hier dans le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. On y reviendra tout à l'heure avec toute l'équipe. En attendant, nous sommes encore à 66 km de l'arrivée à Tours et 5 hommes sont en tête, dont 2 Français, de la place de la formation Soja-Sun et Romain Sicard, coureur français de la formation Euskaltel, accompagné de 3 autres coureurs. Il possède 4 minutes d'avance sur le peloton qui contrôle évidemment comme à son habitude et qui probablement mettra un peu plus tard à tous ses sprinteurs en place pour l'arrivée à Tours. On y reviendra, on en parlera tout à l'heure de tous ces sprinteurs et notamment de Mark Cavendish au cœur de la polémique depuis 48 heures et ce coup d'épaule donné à Villers dans le sprint qui avait envoyé son rival au sol. Il s'est passé des choses depuis, on en parlera tout à l'heure avec toute l'équipe. Cyril, 4 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête. Ouais, ça va pas aller bien loin cette histoire-là. À moi, parce que de temps en temps, il y a des miracles. Mais que faut-il pour qu'il y ait un miracle, par exemple, cet après-midi? Faudrait qu'on s'observe, que les équipes de sprinteurs décident qu'ils ne veulent pas de l'étape, mais ça n'arrive jamais.
Bien, la première question que je pose, est-ce que les miracles existent vraiment?
Je sais pas. On pourrait se poser la question.
Miracle, c'est quoi?
C'est que les échappés arrivent au bout. C'est ça le miracle dans le Tour de France.
Alors, les miracles n'existent pas.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'échappés qui iront au bout.
Ah si, mais pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, d'accord. Ça.
Alors le peloton.
Alors quand, Monsieur le Druide?
Mais je ne sais pas quand. Je vais regarder. Hein, mais j'ai pas eu le temps de me concentrer sur cela. Hein.
Ouais.
Mais il y a une chose sur laquelle j'ai pas besoin de me concentrer, c'est que les coureurs ont quand même 10 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide.
C'est que ça l'embite pas.
Et que vous avez quand même un vent de nord-est et lorsqu'on regarde la composition, enfin les formations dans le peloton, eh bien on se rend compte qu'on pourrait bien avoir dans ce final, et donc là je vous le dis, il peut peut-être y avoir un miracle, oui, il peut y avoir des gros coups de bordure parce que le vent est suffisamment fort pour cela, et dans ces longues lignes droites avec ce vent de nord-est que les coureurs ont à se protéger. Il pourrait peut-être se passer quelque chose au niveau des bordures dans ce final.
D'accord. Un petit mot, Cyril, sur les gars qui tentent quand même l'aventure. Tous les jours, il y en a qui partent dès le premier kilomètre. Souvent, la première tentative est la bonne. Comment on décide et qui décide de partir dans une échappée? Est-ce que ça se fait au briefing le matin? Est-ce que ce sont les coureurs qui, sentant qu'ils ont les bonnes jambes, décident d'y aller? Est-ce qu'on se concerte entre équipiers pour dire, voilà, toi, tu vas tenter aujourd'hui d'y aller? Et pourquoi toutes les équipes ne sont pas représentées, par exemple, dans une échappée? Comment ça se passe?
En fait, il y a dans les briefings, on ne va pas dire systématiquement vous laissez partir la première échappée, parce que c'est devenu culturel. Donc il n'y a pas besoin de l'expliquer le matin au briefing. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller faire envoyer des coureurs faire un raid, en sachant que lorsque vous faites un raid, souvent vous payez l'addition 2 jours ou 3 jours plus tard, surtout 3 jours. Est-ce qu'on a les hommes pour y aller en sachant qu'on va pas les perdre 3 jours après? Donc il y a d'abord un état des lieux au sein de chaque équipe. Chaque équipe n'a pas les mêmes objectifs, et vous remarquerez que les équipes qui se retrouvent à l'avant dès le départ sont des équipes qui n'ont plus rien à défendre par ailleurs. Les premiers jours, on avait beaucoup d'attaques, par exemple des Europcar. Aujourd'hui, ils ont le maillot de la montagne, et comme par hasard, vous ne les voyez plus dans l'échappée. Et donc là, vous avez dans l'échappée des équipes qui, au classement général, n'ont rien à prouver. Vous avez donc Vacances Soleil, Scatel, Lampre, Astana, qui ont déjà d'ailleurs perdu pas mal de coureurs, Soja-Sun, et avec le français de la place. Donc c'est des équipes qui, au départ, elles vont dire, bon, écoutez, il faut pas rater le bon coup qui part. Les équipes de leaders savent que ça va sortir au départ, donc le problème c'est d'essayer de laisser partir le premier coup tout de suite pour éviter ce qu'on a eu dans la deuxième grande étape de montagne dans les Pyrénées, une bagarre qui va durer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Donc on n'a pas du tout envie que ça dure des kilomètres. Donc dès que le premier coup part, d'ailleurs tout de suite, dès qu'il y a 5 ou 6 coureurs de partie et qu'on a fait le bilan de ces coureurs qui sont à l'avant, eh bien hop, on tire le rideau et on les laisse prendre tout de suite 2 minutes. Mmh. Et on les laisse prendre très vite 2 minutes pour qu'il n'y ait pas des contres qui se relancent derrière, qui relanceraient la course et qui pourraient obliger d'avoir une grosse bagarre sur 30, 40 minutes ou une heure. Ce qui arrive d'ailleurs dans les courses d'un jour, par exemple les courses françaises en Coupe de France, où personne ne veut rater la bonne échappée. Et quelquefois, eh bien, vous avez de la bagarre pendant pratiquement une heure. Et au bout d'une heure, quand tout le monde commence à être pendu, hop, là, vous avez un groupe qui part. Mais sur le Tour de France, on ne veut pas prendre ce risque. Ouais.
En pleine forme, le druide. Hein. Il semble avoir refait les niveaux.
Ah,
il
n'y
a pas eu de journée de repos, mais il est là. Hein.
Ah bah écoutez, moi je suis désolé, vous avez parlé tout à l'heure de votre soirée arrosée apparemment.
Pas du tout.
Et puis vous avez beaucoup chanté, puisque la plupart d'entre vous aviez quand même mal à la gorge ce matin. Et bien moi tranquillement, j'allais me coucher de bonne heure pour être en forme ce matin. J'ai même fait mon footing
voilà,
ce matin.
Les jambes en l'air.
Ce que vous n'étiez absolument pas capable de faire ce matin. Je suis parti faire mon footing à 7h30. Et vous étiez où?
Oh là là, tout de suite il balance le druide. Oh. Oh, c'est pas sympa ça.
Ah, c'est pas moqué de parler de votre soirée, Christophe.
Mais non, c'était une soirée culturelle hier soir.
Nous avons découvert
les chansons de notre beau terroir français et de nos belles régions françaises. C'était magnifique.
Voilà, moi, je suis un homme sage.
Oui, c'est ça. Heureusement qu'il en faut. Il en faut dans une équipe.
Il en faut d'ailleurs.
Il y a des brebis galeuses partout. On va parier. On va parier pour voir si le druide a vraiment la forme aujourd'hui. C'est l'heure des paris et on accueille Badji.
Les paris RMC. Tour de France.
Monsieur Ramager, bonjour.
Salut, messieurs.
Ah, tu nous as manqué hier soir. Hein. Je suis sûr que tu aurais pu nous entonner une belle chanson de ta région. Tu es originaire d'où, Benji?
De Normandie, moi. Donc.
De Normandie.
Faire du Stone et Chardin, il n'y a pas de problème.
Alors là, nous étions hier soir au pied du Mont-Saint-Michel.
Je m'en doutais qu'il était
Normand. Il a une bonne tête de Normand. Hein. Il a une
non, mais regardez dans les paris. Hein. Il fait souvent, peut-être que.
Non, effectivement.
C'est bien un Normand.
Benji, 12e étape. On s'en souvient, tu nous en as parlé hier. A priori, ça devrait être pour les sprinteurs. Et c'est pas la physionomie de l'étape depuis qu'elle est partie ce matin de Fougères qui va nous faire changer d'avis. Tu nous rappelles quelles sont les cotes des différents favoris de cette étape.
Et la cote de Mark Cavendish a légèrement baissé. Il est toujours favori. Il est à 2. Ça reste intéressant. Greipel derrière à 3,60. Kittel à 6. Ça a bien remonté. C'était le prono d'ailleurs de notre druide national Cyril Guimard. Quand Cyril l'a joué hier, c'était à 3,90. C'est désormais à 6. Et puis Sagan à 12. Le seul homme de l'échappée à être dans les premiers favoris, c'est Juan Antonio Flecha, un habitué de ces banderies. Il est à 24, 10 euros, 240 euros. Et je vous donne le prono de Fred Adam qui garde sa confiance éternelle en Boissonnaguet.
Fidèle parmi les fidèles.
Mais si un jour ça rentre, tu vas peut-être marquer des points. Enfin marquer des points et enfin quitter le négatif. Parce que bon. Cyril, tu nous disais donc, Kittel, encore une fois, tu penses la passe de 3 pour tonton Marcel?
Ben, je l'espère, puisque j'ai misé sur lui. Je ne suis pas plus serein que cela, quand même, hein, parce que le cave s'est raté à Saint-Malo. Il a d'ailleurs pas fait que de se rater. Et je pense qu'il va être très méchant dans cette arrivée avec un virage à 450 mètres. Mais je pense qu'on va peut-être lui faire de moins en moins de cadeaux et qu'il risque d'avoir un sprint peut-être moins clair qu'il a l'habitude d'en avoir. Ce qui pourrait faire que Kittel, qui est en train de s'affirmer comme l'un des plus rapides sur ce Tour de France. Et puis, il y a un autre indice qui fait que je joue Kittel, c'est que Kittel, lorsqu'il se met à gagner, souvent il fait des séries de 2, 3 ou 4 victoires à suivre, que ce soit sur les 4 jours de Dunkerque ou sur d'autres épreuves par étape. Quand il a débouché le gicleur, il est en pleine confiance et c'est quand même l'un des plus rapides.
Ah, mais c'est vrai que quand on a débloqué le compteur, on a moins de pression sur les épaules. En l'occurrence, c'est le cas des 4 principaux sprinteurs de ce Tour de France, hein, Kittel, Greipel, Cavendish et Sagan, qui ont chacun remporté leur étape. Kittel en a même 2, donc ils sont libérés, hein. Le but c'est quand même d'en remporter au moins une sur le Tour de France. Une fois qu'il y en a une, on est plus serein pour essayer d'en remporter une deuxième ou une troisième, Cyril.
Oui, sauf que le cave, il n'est pas habitué à en gagner qu'une.
Oui, c'est ça, lui c'est pas une, c'est au bout de 10 qu'il est content.
Oui, à Saint-Malo il était un petit peu juste au niveau des cuisses, puisqu'il n'a pas réussi à rester dans la route de son poisson pilote Stigman. Il a été obligé de venir se recaler dans la roue des Argos avant de se sentir piégé et puis de faire ce que tout le monde a vu et ce que tout le monde sait en venant taper un équipier de Kittel. Bon, Kittel, ça l'a pas empêché de gagner puisqu'il était déjà parti sur la gauche, mais son sprint à Saint-Malo est le sprint de quelqu'un qui est battu. qui est battu et rageur, méchant, eh bien, il arrive à faire des gestes quelquefois qu'on a du mal à comprendre ou à imaginer, même si on met la responsabilité sur Tom Beers, ce qui me semble loin d'être évident, bien au contraire. Donc, le CAF, c'est pour ça que j'ai pas mis le CAV aujourd'hui.
D'accord. Donc pas de CAV pour Cyril. Cyril, est-ce que tu as regardé le final de l'étape? Il y a une espèce de fer à cheval que vont devoir emprunter les coureurs avec la flamme rouge et puis deux virages successifs et la ligne droite qui fait 450 mètres. Ça c'est plutôt court comme ligne droite, Cyril.
Non, vous pouvez virer encore en 15e position. Tout dépend qui emmène et l'équipe qui emmène. Effectivement, si vous virez en tête avec encore deux équipiers, 450, vous retirez 300, vos équipiers peuvent vous emmener, les deux derniers peuvent vous emmener à moins de 200 mètres de la ligne. Alors là, ça veut dire que si vous êtes en 15e position, c'est cuit. Si l'homme qui vire en tête n'a plus qu'un seul équipier, là, ça va bousculer un petit peu plus parce qu'il fera venir de l'arrière. Donc là, en 10-15e position, vous pouvez encore venir gagner.
Très bien. Donc, Marcel Kittel pour le Druide, Boissanaguet pour Fred. Je crois que j'ai joué Cavendish, hein, Benji.
Oui, exactement. Tu as joué Cavendish. Bourdi avait joué Greipel, tout comme Lucho d'ailleurs.
Lucho a joué Greipel. Il est là, Lucho. Ça y est, il est arrivé avec tous ses sandwichs. Il y a des porteurs d'eau sur le Tour de France. Il y a des porteurs de sandwichs. Il a la chemise remplie de sandwichs. Ça déborde de tous les côtés. Des rillettes, du saumon, du jambon de pays. Magnifique. Il en a mis partout sur le t-shirt. Ah ben, bravo. Ça va, Lucho?
Ah, oui, ça va.
T'es bien servi là.
Hein, oui, j'ai renversé mon verre de vin sur moi.
Oh, il est violet.
Oh, c'est terrible. C'est terrible. On va, je sais pas si on peut mettre une photo de Lucho. Je vais envoyer une photo. Non. Vous allez pouvoir aller sur le site rmcsport.fr pour voir dans quel état il était hier soir.
Non. Hein,
j'envoie la photo tout de suite à la rédaction.
Je vais avoir la prévention demain matin au départ sur mes.
Et
sur
allez voir.
Elle est belle.
Allez voir. Je vais mettre également sur l'hashtag rmctour. Dans la demi-heure qui vient, tu t'en occupes. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble un Lucho en pleine forme.
Lucho, tu ne risques rien puisque tu ne l'as pas bu.
Non, mais.
Tu l'as mis sur la chemise.
Ah, je vous conseille d'aller voir ça. Ça sera fait d'ici quoi? Un petit quart d'heure? On va faire frétiller nos auditeurs.
Non.
D'ici un petit quart d'heure, Benji?
Jamais tu le fais, je vais me venger.
Non, sérieusement, Luc, cette photo est très belle.
Magnifique, tu es magnifique.
Il y a pas mal de clins d'œil au passé, à l'histoire.
Oh, il se foutait de moi là.
Vous verrez en fond.
C'est authentique.
Non, je ne dis rien. Voilà. Vous allez découvrir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un teasing.
rmcsport.fr.
Voilà un bon teasing comme je les aime. Merci Benji. Je t'envoie ça tout de suite.
J'attends la photo.
15h40, on va faire un top course dans un instant.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC Top Course.
Le Top Course, Fred.
Avec 57 km à parcourir en direction de Tours depuis Fougères dans l'Ille-et-Vilaine ce matin. C'est une étape marathon aujourd'hui. 218 km en direction du sud-ouest depuis la Normandie. Arrivé donc à Tours, non loin du Cher dans l'Indre-et-Loire. 5 fuyards ouvrent la route depuis le 4e kilomètre. Scénario classique, on ne peut plus classique pour une étape de transition. Deux Français, Romain Sicard de l'équipe Euskaltel, Anthony Delaplace de la formation Sojasun. Il y a là l'Espagnol Juan Antonio Flecha, vainqueur d'une étape du Tour à Toulouse. C'était il y a 10 ans déjà. Et puis les Italiens Manuele Mori et Francesco Gavazzi. Ces 5-là continuent de parfaitement s'entendre, mais leurs chances se réduisent comme peau de chagrin. 2 minutes 55, dernier pointage à 56 km de l'arrivée. Les Lotto Bellisol, les Omega Pharma, les Argos sont en train de se relayer à l'avant du peloton pour emmener évidemment les sprinteurs que sont Greipel, Kittel ou Cavendish. Et puis en deuxième rideau, on aperçoit les Sky avec le maillot jaune de Christopher Froome, particulièrement vigilant aujourd'hui. Aucune difficulté à recenser, un peu de vent certes, mais a priori ce sont les sprinteurs qui devraient se régaler tout à l'heure ici à Tours.
Très bien, on va se retrouver dans quelques instants. En attendant, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Et aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'échappée infernale, le livre Le Contour de Serge Lager et Claude Maignan, et surtout deux places VIP pour assister à l'arrivée du Tour de France à Paris sur les Champs-Elysées. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez tout de suite le mot-clé RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance et à tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 12e étape du Tour de France. Aujourd'hui, c'est une étape de transition, une longue transition entre le nord-ouest de la France et le sud-est que nous atteindrons dimanche avec l'ascension du Mont Ventoux, évidemment. Ce sera le début d'une dernière semaine de folie. On l'espère en tous les cas, évidemment. On espère qu'il se passera des choses et pas seulement pour la 2e ou la 3e place. On espère, pourquoi pas, que Chris Froome sera attaqué par ses adversaires. On verra ça. En attendant, aujourd'hui, Chris Froome ne risque pas grand-chose aujourd'hui, mis à part l'insolation peut-être parce qu'il fait chaud aujourd'hui sur la route du Tour. Une nouvelle fois, grand soleil sur cette route. Nous sommes à 53 km de l'arrivée. Fred, alors l'avance continue de descendre pour nos 52
RMC Top Course.
Avec 2 minutes 45 seulement d'avance pour les 5 fuyards à encore 53 km de l'arrivée. Cela veut dire que dans 3 km pour le peloton, il y aura le sprint intermédiaire du jour. Et c'est la raison pour laquelle on voit à l'avant non seulement les équipes de Cavendish, de Greipel, de Kittel, mais aussi les Cannondale, les maillots verts fluo du leader du classement par points, Peter Sagan, qui va tenter d'aller grappiller à Savigny sur l'Attent, très exactement, dans le département, à l'entrée du département d'Indre-et-Loire. On voit les coéquipiers de Peter Sagan amener leur leader pour aller creuser encore l'écart au classement du maillot vert. On va avoir une petite explication dans 3-4 minutes maintenant. 52 km 500 de l'arrivée et une avance de 2,45 pour les 5 échappés, les deux Français Romain Sicard et Anthony Delaplace, l'Espagnol Juan Antonio Flecha et les Italiens Mori et Gavazzi.
Parfait. Pas de moto, donc on vous le disait, la moto est en rade aujourd'hui, mais Lucho, lui, est arrivé, il est en pleine forme. C'est long aujourd'hui, hein, pour les coureurs, au lendemain d'un contre-la-montre. Alors certains, évidemment, l'ont fait un peu tranquillou, ce contre-la-montre, mais pour d'autres, Lucho, ceux qui ont beaucoup donné hier, l'étape va être très très longue.
Ah oui, c'est très long. Déjà en voiture, c'est interminable. Toutes ces longues lignes droites, ce plat, vent de dos, bon, c'est sûr que ça avantage un petit peu les coureurs, comme ça, ils arriveront un petit peu plus tôt quand même aujourd'hui. Mais ouais, c'est vraiment le genre d'étape qui ne me plaisait mais pas du tout, quoi. Parce que là, ça roule bien. Le peloton, il est quand même complètement groupé et tout ça. Il gère bien l'avance des échappés. Et puis quand ça va commencer à rouler encore plus fort dans les 20 derniers kilomètres, c'est là où le stress va arriver. Parce que tous les coureurs là maintenant, là, ils sont un petit peu décontractés. Ils pensent pas du tout à frotter. Ça se passe bien. Mais quand ça va se remettre en route un peu plus fort, un peu plus costaud, à 20 km de l'arrivée, et qu'il va falloir prendre ses positions à l'avant pour les leaders du classement général, et puis pour bien sûr les leaders du sprint comme Cavendish, Greipel et Kittel, là ça va commencer à être un petit peu stressant. Mais bon, voilà, c'est la course. Mais de toute façon, il en faut des étapes de transition comme celle d'aujourd'hui. Tu peux pas faire autrement, parce que pour aller dans les Alpes, malheureusement, on est obligé de passer par là. Mm-hmm. Voilà. Et c'est pas une critique par rapport, je dirais, à la région, au département que l'on traverse.
Évidemment, bien sûr. Il y a que les suiveurs qui demandent ça, pas les coureurs, mais trouver des endroits un peu plus escarpés, trouver des petits bosses.
On peut toujours passer par le Limousin, bien sûr, l'Auvergne.
Non, ce que les organisateurs auraient pu faire, c'est une arrivée à Tours avec le final de Paris-Tours. Vous savez, ces petites côte, la côte de l'Épan, la côte du Petit Pas d'Âne, ce sont des difficultés qui sont vraiment très rapprochées de la capitale tourangelle, et c'est vrai qu'elles auraient pu ces petites côtes émailler, animer un peu le final. On a voulu donner la part belle aux sprinteurs. Il faut respecter le choix des organisateurs, parce qu'il en faut pour tout le monde. Le gâteau se partage de manière assez équitable, et c'est vrai qu'en Corse, ils n'ont pas été spécialement gâtés, sur la Côte d'Azur non plus, ou alors ils ont dû se démener, les sprinteurs, et c'est un peu une récompense pour eux. On leur déroule, c'est le cas de le dire pour eux, le tapis vert pour qu'ils aillent s'expliquer. Le sprint, c'est aussi un art, une partie du spectacle du Tour de France, et quand ça peut se préparer de la manière la plus claire, la plus sereine possible, eh bien il faut que ça se fasse. Il faut tout pour faire un monde.
Alors justement, comment on arrive à construire un Tour de France, un parcours de Tour de France? C'est ça, on met à peu près un tiers. On va peut-être suivre le sprint quand même du peloton.
Oui, parce qu'il y a eu un sprint entre les échappés. L'Italien Gavazzi l'a emporté devant Flecha. Gavazzi, qui était 16e au classement du maillot vert et qui est un bon sprinter, il est allé mettre un point d'honneur, alors que là, Peter Sagan va tenter d'aller grappiller des points. Mais apparemment, Greipel et Cavendish ont la même idée. Cavendish qui passe devant devant Greipel. Il y a également Danny Van Poppel, le Benjamin du Tour de France, qui prend la troisième place de ce peloton. Quatrième, Peter Sagan qui gueule après Van Poppel. Ouais. On a fait un demi-sprint apparemment, puisque Cavendish et Greipel ont franchi la ligne d'arrivée en roue libre, et c'est bel et bien Cavendish qui passe en tête du peloton. C'est étonnant parce que ça se joue à un boyau pour Cavendish devant Greipel,
et en relâchant leur effort tous les deux, hein.
Ouais, comme si on avait voulu davantage éliminer Sagan que se disputer la place de la tête de peloton.
Pourtant, est-ce qu'ils ambitionnent encore
Cyril, le maillot vert, Cyril, qu'est-ce qui s'est passé dans ce sprint du peloton, au sprint intermédiaire du jour là? Pourquoi Cavendish et Greipel ne se sont pas défoncés sur ce sprint?
Bien, je pense qu'ils ont un problème par rapport à Sagan, c'est vrai. L'écart est relativement important, et qu'on sait sur le Tour de France, lorsqu'on sait comment les Tours de France se déroulent, vous pouvez être deuxième, troisième ou quatrième du classement par points, et sur les Alpes telles que ça va être le cas cette année, ou les Pyrénées, peu importe, eh bien vous avez des sprinters quelquefois qui rentrent à la maison, et donc d'un seul coup vous allez vous retrouver en position de pouvoir l'emporter. Donc il ne faut pas négliger ces sprints qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'époque, hein, parce que il y a seulement 3 ans, je crois que on a mis des sprints intermédiaires avec énormément de points. Et c'est vrai que Peter Sagan est intouchable sur le papier, hein. Bon, là il a presque failli chuter d'ailleurs sur ce sprint, hein, où il a été tassé par Van Poppel. Il a failli se prendre les balustrades. Bon, il vient quand même faire troisième, ce qui fait que j'ai presque envie de dire c'est coup nul entre les trois premiers de ce classement par points. Mais il y a quand même un petit marquage à la culotte entre Greipel et Cavendish, et c'est vrai, on va pas faire de cadeau à Peter Sagan. Mm-hmm. D'autant qu'il les domine de trop. Vous savez, quand vous appelez Cavendish et que vous regardez et que vous êtes, tenez-vous bien, vous êtes à 103 points, un peu moins maintenant, il est revenu à moins de 100 points, 99, de Peter Sagan pour le classement du maillot vert, votre orgueil, votre réputation en prend un coup quand même. Mm-hmm. Surtout en plus quand vous êtes impliqué dans des chutes un peu troubles.
Ouais, y a quand même beaucoup de classements qui sont joués, enfin peut-être 2 sur 4. Le classement du maillot jaune, bon, on y reviendra tout à l'heure, en 3 minutes 25, c'est vrai qu'on en parle depuis 2-3 jours, ça nous semble compliqué maintenant pour les adversaires de Chris Froome de venir l'embêter, de lui piquer son maillot jaune d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et puis c'est vrai que ce classement par points, ce maillot vert qui est presque aussi important que le maillot jaune, là aussi semble jouer. Il y a du suspense en revanche pour le maillot à poids, puisque les grandes étapes de montagne arriveront à partir de dimanche, et il y a aussi du suspense pour le maillot blanc. Fred, Kwiatkowski, qui est quand même le coureur surprise, le jeune surprenant de ce Tour de France, mais il n'a pas encore course gagnée, même s'il a une bonne avance quand même sur Quintana et sur Romain Bardet par exemple.
Oui, Kwiatkowski qui a ravi le maillot de meilleur jeune à Nairo Quintana hier à l'issue du contre-la-montre. Kwiatkowski quatrième du chrono, alors que Quintana, le grimpeur colombien, a lâché plus de 3 minutes 30 hier au Mont-Saint-Michel, ce qui est pour lui le pur grimpeur. Une relative bonne performance, se placer aux alentours de la 80e place sur ce contre-la-montre très vanté et sans aucune difficulté. Quintana a lâché certes le maillot blanc, mais n'est qu'à 34 secondes du nouveau porteur du maillot de meilleur jeune. A priori, Quintana devrait profiter des Alpes en 3e semaine pour récupérer ce maillot blanc. Ce serait pas mal quand même de voir un Colombien sur le podium des Champs-Élysées, même si évidemment on n'a rien contre les Polonais, bien au contraire.
J'espère bien.
Il y a un autre classement qui n'est pas joué, c'est le classement par équipe.
Ah oui, c'est important aussi. Le
classement par équipe, c'est l'équipe Movistar qui se retrouve en tête devant la Saxo, l'équipe hollandaise Belkin. Et puis on est en quatrième position et qui n'a pas dit son dernier mot dans ce classement, et on sait qu'il est très important pour Vincent Lavenue. C'est l'équipe donc AG2R qui n'est qu'à 12 petites minutes de l'équipe Movistar, mais qu'à 8 minutes de l'équipe l'équipe Saxo. Alors, quand on sait que l'équipe AG2R, parce que le classement se fait toujours sur le troisième homme, il se fait pas sur le premier, et que régulièrement, il y a trois hommes d'AG2R qui finissent, on va dire, dans la première partie des étapes de montagne. Alors, elle a un peu reculé, l'équipe AG2R, la mondiale, parce que le contre-la-montre n'est quand même pas leur spécialité, même si Jean-Christophe Perrault a fait une bonne performance, pas exceptionnelle, mais une bonne performance.
Très bien, on va se retrouver dans quelques instants, juste après les infos de 16h, on retrouvera Dédé de l'Assemblée des départements de France qui est justement sur la route aujourd'hui en direction de Tours, et puis un petit top course quand même, hein, pour la fin, pour la route. Allez, le top course de Fred, avant les infos.
RMC Top Course.
À moins de 47 km de l'arrivée à Tours sur cette longue étape de transition entre Fougères en Ille-et-Vilaine et Tours donc en Indre-et-Loire, 46 km 500 à parcourir, et ils ne sont plus que 4 à l'avant de la course, puisque sur le sprint intermédiaire, le Français Romain Sicard a décroché un peu court l'ancien champion du monde espoir, qui pointe désormais à 1 minute 10 de ses 4 anciens compagnons d'échappée, à savoir le Français, le Normand Anthony Delaplace, l'Espagnol Juan Antonio Flecha, les Italiens Mori et Gavazzi, 1 10 sur Sicard et 2 minutes 30 sur le peloton à 46 km de l'arrivée.
Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes pour la suite de l'intégral Tour, toujours en direct sur RMC et jusqu'à 18h, 12e étape du Tour de France au programme aujourd'hui.
RMC jusqu'à 18h, intégral Tour, Christophe Sessieux.
Sur la route ensoleillée du Tour de France, en direction de Tours aujourd'hui à l'occasion de cette 12e étape de la Grande Boucle, 218 km à parcourir entre Fougères et Tours, une étape de transition qui vraiment mérite bien son nom. Aujourd'hui, le peloton toujours à la chasse, tranquille derrière les hommes échappés. On va tout de suite faire un nouveau point de la situation car l'avance continue de se restreindre pour nos 5 hommes de tête, le top course.
RMC Top Course.
Avec moins de 40 km désormais en direction de Tours, ils peuvent y aller, les coureurs. C'est toujours tout droit en cette journée de transition. 218 km entre Ille-et-Vilaine et Indre-et-Loire. Une échappée qui comptait dès le quatrième kilomètre 5 coureurs. Ils ne sont plus que 4 à l'avant. Le Français Anthony Delaplace, 23 ans et demi seulement. Le beaucoup plus expérimenté Juan Antonio Flecha, l'Espagnol de l'équipe Vacances Soleil. Les Italiens Manuele Mori et Francesco Gavazzi à 39 km de l'arrivée. L'écart est pile de 2 minutes sur un peloton, évidemment conduit par les équipes de sprinteurs qui ne veulent pas manquer l'occasion. Les Lotto Bellisol, les Argo Shimano, les Omega Pharma sont à l'avant. Et à l'instant, on aperçoit les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador à l'avant, au même titre que les Movistar d'Alejandro Valverde. Visiblement, on craint des cassures ou pourquoi pas des chute. Alberto Contador, avec qui on a partagé le petit déjeuner ce matin à l'hôtel.
Ah ouais, alors qu'est-ce que ça mange un champion
Je l'ai surpris, le pistolero, la main dans le pot de Nutella.
Oh, il faut bien non le dire. Alors, je comprends que les performances sont moins importantes.
Il avait la banane, tout content. oui, Alberto Contador qui n'est pas un anorexique, loin de là. Il fait attention à sa nutrition, évidemment. Mais avec les calories dépensées tout au long de la journée, nos amis coureurs peuvent bien s'accorder quelques petits plaisirs, quelques petites sucreries.
Ah, ils vont pas grossir sur le Tour de France. Ça, c'est pas un endroit où on grossit quand on est coureur. En revanche, quand on est suiveur, c'est différent. Lucho, lorsque tu étais coureur, est-ce que tu as une idée du nombre de kilos que tu perdais sur 3 semaines de course?
Bah, déjà, quand tu arrives sur le Tour, t'es pratiquement affûté. Tu as 5% de graisse à peu près.
5%, donc, ça fait rien, ça.
Tu perds pas énormément de poids. Bon, moi, je finissais à peu près à 57 kilos.
Et tu partais à combien?
58, 59.
Ah oui, donc tu perdais 59. Pas énormément.
Non, tu perds beaucoup d'eau. Bon, après, il faut bien s'hydrater et tout ça, mais tu repères un petit peu, mais sans plus, quoi. Hein. Quand on arrive sur le Tour de France, en règle générale, on est déjà bien assez affûté. Mm-hmm. Donc, on n'est pas là sur le Tour pour s'affûter encore plus.
Alors, Cyril, c'est vrai qu'on a des images des champions actuels du Tour de France qui sont quand même assez surprenantes. Ces garçons qui ont quasiment la peau sur les os. Évidemment, pour être un coureur cycliste, il ne faut pas être gros. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible autrement, mais on a l'impression qu'ils sont quand même encore plus maigres qu'ils ne l'étaient à ton époque ou à celle de Luc.
Non, non, je ne pense pas. Non, non, non.
On voyait les Vénas au temps de Cyril.
On les voit encore aujourd'hui. Ouais. Moi, à l'époque où je faisais le Tour de France, sur le ventre, on voyait les veines comme sur les jambes. Hein.
Ouais.
Non, mais de toute façon, vous avez un taux de masse grasse qui d'ailleurs détermine votre poids de forme, qui est de 6%. Alors, quand vous attaquez le Tour, si vous l'attaquez avec 8%, vous êtes très mal.
Ouais.
Vous n'êtes pas dans l'allure, surtout si en plus on vous met des cols. Non, on a en règle générale, soit on arrive à 6-7% et on va finir à. Allez, on va finir à 5, voire à 4.
Ouais.
J'ai vu quelques coureurs à 4%, mais c'était vraiment exceptionnel. Donc, il faut arriver au départ du Tour avec son poids de forme. D'ailleurs, il faut arriver au départ du Tour en forme, en condition maximale. Je vois souvent des explications plus ou moins hasardeuses sur « Ah ben, vaut mieux que j'arrive pas trop en forme parce que mon pic de forme, il va être 1. » Non. Vous arrivez au départ du Tour, vous êtes à 100% ou vous ne gagnerez pas le Tour.
Et durant l'hiver, on peut prendre beaucoup de kilos entre la fin du Tour de France
Ça dépend le nombre de pots de Nutella au petit déjeuner le matin. Et puis du morceau de glare
au casse-croûte
de 9h. Hein.
Il y en a qui sont facilement au-dessus des 10%, hein, 12%.
Hein. Pas au départ du Tour.
Non, l'hiver.
Ouais, mais ils ont quelques soucis pendant quelques mois pour les repères.
Ouais, oui, c'est sûr qu'on traîne ces kilos comme ça pendant des années. Tiens, on va demander à Dédé.
En parlant de...
Ouais, bah, savoir son taux de...
Masse grasse.
Ouais. Ah, il est à au moins 5%. Salut André, de l'Assemblée des départements de France.
Oui. À 105%.
J'en connais d'autres derrière leur micro qui
ne
sont pas très loin des trois chiffres en masse totale.
Hein.
Vous voyez ce que je veux dire.
On voit pas du tout.
Il y en a des affûtés aussi.
Ah oui, il y a des très très affûtés. Ah, Fred est très affûté.
Ouais, arrêtez.
Fred est très affûté.
Ah, André, la route est belle, la route est longue,
la route est très longue.
Ça chauffe. Le gros Léon chauffe cet après-midi.
Ça a eu chauffé, oui, il y a eu quelques petites interventions, mais mine de rien, c'est quasiment depuis le départ entre 2 et 4 tonnes d'eau qu'on met tous les jours pour refroidir les portions de chaussée. Donc ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas eu un tour avec des routes à cette température-là, et pour nous c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on est vraiment utile. Parce qu'il y a des moments où dans certaines éditions du Tour, on s'était posé la question. Quand il fait 20 degrés avec une petite pluie fine, on se demande vraiment si on a besoin d'arroser la route. Donc là, en l'occurrence, depuis le début du Tour, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Voilà.
Donc ça c'est bien. Tu sers à quelque chose, t'as l'impression de servir à quelque chose.
Oui, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose parce qu'aujourd'hui, avec l'étape assez plate, on va dire, que nous vivons, c'était plutôt les châteaux de la Loire. Et toutes les spécialités locales. Il y a quand même de très très beaux châteaux dans le coin. D'ailleurs, la course passe à Langeais, elle passe également à Villandry, donc il y a quand même de très belles demeures à voir. Et puis dans la toute proximité, on a quand même des gros morceaux des châteaux de la Loire, hein, du Chinon, du Hazel Rideau. Donc si vous avez le temps, une fois que la course est passée, bien n'hésitez pas à aller visiter ces très beaux châteaux de la Renaissance ou d'avant, qui ont le mérite d'être assez regroupés dans la région.
Ouais, Hazel Rideau, c'est vrai qu'il est
sublime.
C'est tout simplement
sublime.
Ce château, c'est sans doute l'un des plus beaux de ces châteaux de la Loire. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes passionné de vélo, je sais que beaucoup de nos auditeurs le sont, et que vous êtes un cyclotouriste, il y a une balade magnifique à faire, c'est la Loire à vélo. Sachez que c'est l'une des plus belles balades de France. Il y a quasiment 800 km de pistes cyclables entre Nevers et Nantes. Tout ça, vous pouvez le faire à vélo en longeant les bords de la Loire, Fred. C'est magnifique. Hein. Et là, on a l'occasion justement de découvrir les châteaux de la Loire, de prendre son temps, de pique-niquer, de voir les coureurs du Tour aujourd'hui ou demain. Bref, c'est une magnifique balade. C'est vrai que c'est une très belle région. Et en plus, quand on peut la faire à vélo, c'est sympa. En plus.
800 km et ce n'est pas un aller-retour. C'est bel et bien un aller simple qui peut se prolonger d'ailleurs sur des voies cyclables en direction de Vienne ou de Budapest. C'est vrai que de plus en plus, et on s'en réjouit, des voies sont aménagées pour la pratique cycliste. On est dans le développement durable, on est dans le loisir et on est dans le vélo utile également. Vélo plaisir, vive le mois de juillet, vive le Tour, mais vive le vélo tout simplement tout au long de l'année. Faites-en, c'est bon pour c'est bon pour le corps et c'est bon pour la tête. Et il y a beaucoup plus malsain comme activité que d'aller pédaler. Revenons à ces valeurs si belles et si pures que celles de pédaler, par exemple.
Voilà, et on a besoin de rien en plus pour faire les chemins de la Loire. On n'a pas besoin de prendre des vitamines ou n'importe quoi. On n'a pas besoin de préparation médicale. Hein.
Non, on peut s'arrêter dans les caves.
On peut s'arrêter dans les caves.
Il y en a des bonnes.
Tu parles connaissance de cause.
Il y a du Bourgogne, il y a du Chinon, il y a du Sauvignon.
Tu nous donnes l'eau à la bouche.
C'est pour ça que tu vas passer nous voir tout à l'heure. T'as bien rempli le coffre, Dédé, non?
Oui, le coffre est rempli. Oui. Il y a déjà du fromage, donc on va compléter avec des bouteilles.
Oh là là là, arrêtez, c'est terrible. Merci, monsieur André. On vous retrouve demain, évidemment, pour nous donner des nouvelles de la route. Demain, on ira vers Saint-Amand-Montrond. Là aussi, ce sera magnifique. Bonne journée, bonne route. Et attention, ne t'arrête pas non plus dans toutes les caves.
Non, j'y fais attention.
Très bien. 16h14, retour vers la course. Nous sommes à... Eh oui, on se rapproche de l'arrivée, mine de rien. 33 km, Fred, le top course.
RMC Top Course.
Et on est bien occupé à l'avant du peloton, les Argos Shimano qui comptent en leur rang le seul sprinter du Tour de France qui a remporté deux étapes, le seul coureur du centième tour qui a remporté deux étapes, Marcel Kittel. Les Argos sont en train de mener un rythme très soutenu à l'avant pour revenir sur les quatre échappés. Ils sont quatre rescapés de cette échappée matinale à 33 km de l'arrivée. Le Français Normand de l'équipe Sojasen, Anthony Delaplace, 23 ans et demi, qui est un ancien vainqueur de la Polynormande. Il est accompagné de l'Espagnol Juan Antonio Flecha et des Italiens Mori et Gavazzi. On commence à s'attaquer à l'avant de la course. La cohésion n'est plus optimale, n'est plus ce qu'elle était, et on le comprend. À 32 km de l'arrivée, l'avance des quatre fuyards est tombée à 1 minute 20 sous l'impulsion des équipes de sprinteurs parfaitement organisées et qui ne veulent pas laisser passer l'occasion. On roule à plus de 60 km/h, ce sera une moyenne très élevée, entre 46 et 47 km/h sur cette étape marathon.
Le final de cette étape, ce sera donc dans l'heure qui vient. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct sur la route du Tour sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le final se rapproche plus exactement pour les 5 hommes de tête et pour le peloton lancé à leur trousse. 5 hommes qui ne comptent plus qu'une petite minute d'avance à 30 km de la fin. On fait un nouveau point sur cette course car ça sent pas bon pour nos 5 échappés, Fred. Le
RMC Top Course.
C'est sauf qui peut, effectivement, à l'avant, une union qui est en train de s'effilocher entre les quatre fuyards. Le Français Anthony Delaplace, l'Espagnol Juan Antonio Flecha et les Italiens Mori et Gavazzi échappés dès le 4e kilomètre aujourd'hui dans cette étape de transition sans aucune difficulté qui arrive ici à Tours en Indre-et-Loire. Moins de 30 km de l'arrivée, l'avance des quatre fuyards n'est plus que de 1 minute. Les équipes de sprinteurs se sont transformé en armada de snipers. On a là-bas en ligne de mire les quatre fuyards et on ne veut surtout pas laisser passer l'occasion d'un sixième sprint sur ce centième Tour de France. Pour l'instant, il y en a eu 5, me semble-t-il, avec 2 victoires pour Sagan, 1 pour Cavendish, 1 pour Greipel et 2 pour Kittel. Le compte est bon. Peut-être et probablement une 6e arrivée au sprint ici dans 29 km.
Et oui, parce que là, 56 secondes d'avance seulement pour nos 4 hommes. Hein. Ils sont plus que 4 hommes car Romain Sicard a lâché prise tout à l'heure. Ça va être très difficile alors que le peloton traverse
la Loire. Et oui, elle est effectivement.
Belle, pont de Langeais.
Exactement.
Tiens, un document RMC Sport. Vous savez qu'on adore vous présenter des documents. Un document sonore, évidemment, à la radio, c'est mieux. C'était hier soir à Ducey. Écoutez ça. Vous allez reconnaître la voix.
Dans de Paris.
On entend bien le sport des RMC Sport. Hein.
Oui.
Elle aime ses bruyères, car c'est là qu'elle a grandi, au flanc des coteaux jolis.
Voilà, c'est un document RMC Sport, vous l'avez évidemment en exclusivité. Voilà, avez bien reconnu le timbre,
le timbre bourvilien.
À nous l'autre pareil, oui.
Le timbre bourvilien.
C'est Luc Leblanc.
Vous l'avez reconnu. Voilà, en pleine forme, Luc Leblanc hier soir. C'est quoi cette chanson, donc, rappelle-nous?
Bruyère corrézienne.
Bruyère corrézienne, d'accord.
Ouais, cette chanson a été créée par, enfin, faite par Alain Ségurel, grand accordéoniste il y a plus de 30 ans maintenant. Et il a vendu à l'époque plus de 1,5 million de disques sur Bruyère corrézienne.
C'était
l'un des plus grands, avec Verschuren qui nous a quittés récemment, qui a vendu lui plus de 70 millions d'albums. Mais voilà.
Très bien. Alors si vous voulez en plus l'image qui va avec le son, vous allez sur l'hashtag RMC Tour et là vous aurez une idée de ce qui s'est passé hier soir.
Quand même.
Ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, maintenant.
Oui. Entre nous, j'ai bien fait d'éviter le massacre.
Voilà, oui, parce qu'avec le druide en plus, là on était sûr qu'il neige, hein, s'il s'était mis à chanter lui aussi. 27 km de l'arrivée. Allez, on va se concentrer sur la course. Là ça devient sérieux. Fred, plus que 4 hommes en tête et plus que quelques secondes d'avance. Il résiste. Toujours devant autant de monde sur le bord des routes.
Et ils n'ont plus de voitures suiveuses derrière eux, puisque les voitures de directeurs sportifs viennent de se faire doubler par le peloton et les voitures intercalées passées devant. Accélération à l'instant à 27 km de l'arrivée du coureur le plus expérimenté de cette échappée, à savoir l'Espagnol Juan Antonio Flecha, franc-tireur de l'équipe hollandaise Vacan Soleil. Âgé de 35 ans, Juan Antonio Flecha, qui avait remporté une étape du Tour de France, on s'en souvient, c'était il y a 10 ans, en 2003, à Toulouse, sous une canicule. Juan Antonio Flecha, qui ne parvient pas à faire le break dans cette échappée à moins de 27 km de l'arrivée. Le quatuor de tête composé de Flecha, du français De La Place, des italiens Mori et Gavazzi compte 45 secondes sur un peloton qui roule tel un métronome, tel un rouleau compresseur, prêt à avaler sa proie, prêt à écraser les miettes de l'échappée. Pour l'instant, il résiste et nul doute que les attaques vont se succéder, avec un instant Anthony De La Place, le jeune normand de la formation Sojasun, qui tente sa chance sans succès lui non plus. Anthony De La Place qui, depuis deux semaines maintenant, a un jeune frère, Cédric, champion de France amateur. Cédric, membre de l'équipe Sojasun Espoir, et qui devrait, selon toute vraisemblance, rejoindre son frère aîné au sein de l'équipe Sojasun, au sein des rangs professionnels. Deux De La Place chez les grands, a priori, l'année prochaine.
Très bien, 26 km de l'arrivée. Cyril, on va donc pouvoir petit à petit s'intéresser au sprint qui aura lieu tout à l'heure, avec évidemment un Mark Cavendish dont on a beaucoup parlé depuis 48 heures, suite évidemment à ce coup d'épaule qui a envoyé Villers à terre. Un geste qui n'a pas été sanctionné par les commissaires, mais qui a eu des répercussions, Fred, puisque hier, lors du contre-la-montre, Mark Cavendish a été victime de supporters sans doute un peu éméchés, qui l'ont copieusement insulté, et pas seulement insulté. Hein.
Oui, c'est le genre de spectacle auquel on assiste sur Paris-Roubaix quand on assiste à l'enfer du Nord sous la canicule. C'est vrai que le taux d'alcoolémie grimpe autant que les degrés au fil de la journée, mais apparemment certains supporters, on va pas les appeler comme ça, certains visiteurs du Tour de France ont trouvé ce prétexte-là pour faire n'importe quoi et faire parler d'eux surtout. Mark Cavendish qui s'en est plaint, mais qui a le meilleur moyen de se venger dans ses jambes, c'est-à-dire que la dynamite peut sortir du bolide anglais du Pitbull qui va viser tout à l'heure, on le rappelle, ici à Tours, qui va viser sa 25e victoire d'étape depuis le début de sa carrière, lui le pas encore trentenaire sprinter britannique. Nul doute que ce genre de phénomène, ce genre d'agression,
son orgueil.
Son orgueil, exactement.
Ouais, il a pas besoin d'être énervé en plus, Cyril Cavendish, pour être fort. Là, il va être remonté comme jamais tout à l'heure dans le sprint.
Ah, c'est évident. C'est évident qu'il a une revanche à prendre. D'abord parce que c'est quand même pas lui qui a gagné le plus d'étapes sur le Tour de France cette année, puisque c'est Kittel avec deux, et que tous les autres sprinters ont le compteur bloqué à un. Donc, il aimerait bien remporter une deuxième victoire pour revenir à la hauteur de Kittel. Donc c'est un sprint qui va sans doute être très disputé, très très houleux, en espérant que ça ne se traduise pas par ce qu'on a vu il y a 48 heures, mais un sprint qui va être très très tendu.
Très très tendu. En tous les cas, les Allemands jusqu'à présent ont plutôt bien réussi leur Tour de France, hein, mieux que les Français, c'est le moins qu'on puisse dire. Kittel qui a remporté deux étapes. Hier, c'était Tony Martin. Ils en sont à trois victoires d'étape. Pierre-Yves, ça commence à faire beaucoup pour les Allemands. Hein. On disait que le cyclisme allemand était moribond, qu'il ne s'était pas remis.
Greipel,
quatrième, ouais. Oui.
Greipel est allemand.
Quatre étapes, évidemment.
Ah, ils sont au-dessus des Français. Hein,
ah oui, largement, oui. Si on en a une, déjà, ce serait pas mal. Hein.
Mais ouais. C'est véritablement le renouveau du cyclisme allemand, hein, depuis, on va dire, l'ère Ulrich et Zabel. Ouais.
L'ère Ulrich, Claudel, Kessler, autant de noms qui rappellent les sombres années de la Deutsche Telekom ou de la T-Mobile. C'est vrai qu'a priori, le cyclisme allemand a dû manger son pain noir, a dû faire sa pénitence, vivre sa pénitence pour revivre, pour ressusciter.
Ouais, alors c'est vrai que le cyclisme allemand, justement, avait énormément souffert, Pierre-Yves, après les révélations de dopage. Les chaînes allemandes avaient même déserté le Tour de France pendant quelques temps. Les coureurs cyclistes n'étaient plus du tout considérés en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est un véritable renouveau auquel on assiste. Hein.
D'ailleurs, il y a beaucoup moins de journalistes allemands qui suivent le Tour de France aujourd'hui qu'il y a encore 5-6 ans. On les a vus disparaître petit à petit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle génération, même s'il y a eu les révélations juste avant le Tour de France encore avec Yann Ulrich, ça a encore mis un coup de plus.
Les aveux de Yann Ulrich, voilà. Tant d'années après.
Voilà, il a mis du temps, mais c'est sorti, donc ça a remis le thème du dopage au centre du cyclisme allemand une nouvelle fois. Et là, il y a des coureurs qui essayent de repartir de l'avant, un peu comme d'ailleurs dans toutes les nations aujourd'hui dans le cyclisme. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et ces quatre victoires là déjà depuis le début du Tour font évidemment beaucoup de bien pour le cyclisme allemand. Et c'est pas terminé, on peut l'imaginer, parce qu'il y a encore quelques opportunités pour les sprinteurs, notamment pour Greipel dès aujourd'hui, pourquoi pas.
On rappelle que les chaînes allemandes ARD ou ZDF ne retransmettent pas en direct le Tour de France depuis plusieurs années maintenant, et peut-être que ces résultats-là vont un peu changer la position des chaînes publiques et privées en Allemagne. C'est vrai que Yann Ulrich, malgré sa victoire en 1997, malgré la victoire de Bjarne Riis également sous le maillot T-Mobile ou Télécom à l'époque en 96, a fait beaucoup de mal. Les succès, c'est bien, mais l'éthique, c'est encore mieux, considèrent les responsables des chaînes allemandes, qui vont peut-être voir arriver ce Marcel Kittel, ce Tony Martin ou la confirmation d'André Greipel comme de beaux signes. En tout cas, c'est vrai que Marcel Kittel est un très très beau produit d'appel pour les cyclistes allemands.
Ouais, ouais.
The Body, hein, Time Mannequin.
C'est un physique, ouais.
Ouais, même s'il est
particulièrement apprécié des suiveuses. Oui, on en connaît.
Vous savez que vous avez un jeune sprinter allemand aussi qui commence à pointer le nez, c'est le fils d'Eric Zabel.
Ah oui. Rick, il s'appelle Rick Zabel.
Et qui va très très vite également, et on va retrouver très vite dans les arrivées chez les pros.
Il y a John Degenkolb également, le coéquipier et compatriote de Marcel Kittel au sein de la formation Argo Shimano. Il ne leur manque désormais qu'un prétendant au classement général, à nos confrères d'Outre-Rhin. On parle de Tony Martin, le rouleur, qui devrait perdre 4 kilos pour prétendre au classement général. C'est vrai que chez Omega Pharma, on n'a pas de favori pour le général, et on se concentre, on met tous les œufs dans le panier Cavendish pour préparer les sprints et pour remporter des étapes. Pour l'instant, c'est cela qui manque au cyclisme allemand.
Alors Pierre-Yves, justement, tu as rencontré le directeur sportif de Marcel Kittel pour qu'il te parle justement de ce renouveau du cyclisme allemand.
Oui, et aussi du physique de Marcel Kittel, produit d'appel. On l'écoute, Benny Kullen.
Il a une très bonne représentation pour l'équipe, une bonne image. Je trouve aussi très, très important pour le cyclisme allemand, par exemple, parce qu'il était vraiment dans le trou. Et ils ont besoin de types comme ça qui représentent la nouvelle génération des cyclistes en Allemagne. Il est au courant, il prend sa responsabilité aussi. Et je crois que Marcel est un type idéal pour donner une belle image au cyclisme allemand.
Voilà, on peut dire que c'est une gueule, quoi. Marcel Kittel, en plus, avec ses lunettes de soleil, très souvent. Il fait attention à son look, hein.
Oui.
Ça rappelle un peu un Mario Cipollini, par exemple.
En moins exubérant, en moins latin.
Plus allemand, oui. Plus allemand.
Oui. Mais la Gomina est là, hein.
La Gomina est là. Tiens, on va l'écouter, Marcel Kittel, qui évoque lui aussi ce renouveau du cyclisme allemand.
in the end, that's part of the history.
C'est une part de l'histoire avec laquelle le cyclisme doit vivre.
And also,
c'est quelque chose que doivent accepter les jeunes, mais ce ne sont pas nos erreurs. Et maintenant, nous devons essayer de démontrer qu'il est possible de gagner proprement, même dans les plus grandes courses.
C'est ce
que nous devons essayer de prouver désormais.
Voilà, le renouveau du cyclisme allemand. Il y a le renouveau du cyclisme néerlandais, dont on parlera également dans les jours prochains, parce qu'ils sont là. Il y en a deux de cette formation Blanco, Mollema et Ten Dam, qui sont placés au général et qui vont à nouveau faire parler d'eux, ils l'espèrent en tous les cas, dans les étapes des Alpes que nous aborderons à partir de dimanche et l'ascension du Mont Ventoux. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Le Compte Tour de Serge Lager et Claude Ménian, et surtout deux places VIP pour assister à l'arrivée du Tour de France à Paris sur les Champs-Élysées. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez le mot-clé RMC par SMS au 732-16. Bonne chance, on se retrouve dans quelques instants. 20 km de l'arrivée, plus que 35 secondes d'avance pour nos échappés qui vont se faire ingurgiter dans quelques minutes.
Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour avec toute la bande évidemment, Luc Leblanc notre chanteur, Cyril Guimard notre druide, Fred Adam notre French lover, et puis évidemment la moto qui n'est pas là, la moto, mais qui va arriver demain. Vous inquiétez pas, elle sera de retour. Marc est en train de rallier l'arrivée à vitesse grand V, et demain nous serons avec la moto, Georges Quirino et Marc Combe, pour vous faire vivre la prochaine étape. En attendant, on va voir si celle-ci se termine et ça se rapproche. Nous sommes plus qu'à 17 km de l'arrivée. Fred, le top course.
RMC Top Course.
Ah, ils tentent tout, les quatre rescapés de l'échappée matinale, le français Anthony Delaplace, l'espagnol Juan Antonio Flecha, les italiens Mori et Gavazzi, mais à moins de 17 km de l'arrivée maintenant, ici à Tours, ces quatre-là sont en train de se faire revoir par le peloton, un peloton évidemment conduit par les sprinteurs ici sur les routes de la Touraine. 15 secondes d'avance à 16 km 500 de l'arrivée, les sprinteurs ont sonné la charge, mais également les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador. Vigilance absolue pour les leaders du classement général, puisqu'à gauche de la route on a les maillots bleus et jaunes des Saxo, et à droite les maillots noirs et bleus des Sky, avec en quatrième position Chris Froome, le leader du classement général. Vous le voyez, les équipes de sprinteurs n'ont plus besoin de se mettre à la planche, elles viennent de passer le relais aux équipes de leaders. C'est un peu le scénario inverse de ce qui se passe d'habitude, la vigilance est à son comble. Cyril Guimard, qu'est-ce qui justifie ça, que les équipes de leaders aient pris le relais des équipes de sprinteurs?
On va demander à Lucho, tiens.
Lucho,
le roi des bordures.
On est à 16 km, on est dans le final, et les équipes de sprinteurs ont lâché la main.
Bah, les équipes des sprinteurs ont lâché la main. Normalement, elles auraient dû prendre la main. Moi, je sais
pas. Elles l'ont prise préalablement. Oui.
Oui. Ben, peut-être parce qu'elles n'ont pas envie de faire trop de travail, parce que peut-être que les équipiers de Cavendish, Greipel et Kittel veulent être en surnombre à 5 km de l'arrivée pour pouvoir emmener leur leader. Et que je donne un exemple, l'équipe de Cavendish. Cavendish qui n'a pas gagné de sprint, il en a gagné qu'un, n'avait pas beaucoup d'équipiers autour de lui, et peut-être que ses équipiers se réservent pour pouvoir l'emmener en surnombre sur l'arrivée, parce que quand tu regardes un petit peu la situation de l'arrivée à les 700-800 derniers mètres, c'est un petit peu tortueux, donc Cavendish aura besoin d'équipiers comme je dirais Kittel et Greipel, mais il faut absolument qu'ils soient en surnombre, parce que quand tu emmènes un des leaders du sprint, quand tu sors du dernier virage, il reste 500 mètres, s'il te reste deux équipiers devant, par exemple Cavendish est assuré de gagner, tout comme peut-être Greipel. Donc il faut vraiment être en surnom. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de griller leur force encore à 15 km de l'arrivée et en garder un petit peu plus pour les 5 derniers kilomètres, afin d'emmener leur leader dans les meilleures conditions possibles. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du sprint.
Aucun souci pour les sprinteurs, en tout cas à 15 km de l'arrivée. Le peloton conduit par les Sky et les Saxo Tinkoff. Le peloton compte seulement 12 secondes de retard sur les 4 fuyards. Les 4 qui passent à l'instant sous la banderole des 15 km.
Voilà, vu que quelques secondes d'avance donc pour nos hommes de tête, ils vont se faire passer une nouvelle fois comme c'est le
le cas depuis le début de ce Tour de France. C'est vraiment pas le Tour de France des échappés, des baroudeurs, même si Delaplace tente un baroudeur.
C'est bien de voir Anthony Delaplace, 23 ans et demi, coureur normand de l'équipe Sojasun, être le dernier des rescapés de l'échappée à tenter sa chance à moins de 15 km de l'arrivée. C'est lui qui ouvre la route et qui ne se résigne pas. Ouais, il va aller chercher là le titre très honorifique de combatif du jour, mais ça compte pour l'équipe Sojasun qu'on voit souvent aux avant-postes. À défaut de s'imposer, cette équipe aura au moins montré le maillot. Anthony Delaplace qui en fait est en contre-attaque derrière deux de ses anciens compagnons d'échappée, l'italien Gavazzi et l'expérimenté espagnol Juan Antonio Flecha.
Ça ne s'entend pas vraiment entre les deux hommes. Ça,
c'est voué à l'échec.
C'est voué à l'échec. Tiens, d'ailleurs, nous serons ce soir à 19h20 en direct avec Stéphane Lowe et avec les coureurs de la formation Sojasun, cette petite équipe française qui montre le maillot et qui montre qu'elle a de belles qualités, de beaux coureurs dans ce Tour de France.
Qui partait de chez elle ce matin, Fougère, Lille-et-Vilaine. Le siège de l'équipe et la marque Sojasun sont à Rennes. Et effectivement, cela a donné des idées à Anthony Delaplace qui, à l'instant, est avalé par l'avant-garde du peloton. Il reste deux échappés, Gavazzi et Flecha, mais ces deux-là ne comptent que 10 secondes d'avance sur un peloton toujours conduit par les Sky et les Saxo.
Franchement, pour les équipes de sprinteurs, c'est tout bénef, Cyril, de voir comme ça les équipes de leaders emmener, revenir sur les échappés. Elles vont garder toutes leurs forces pour emmener leurs sprinteurs dans quelques kilomètres vers la ligne d'arrivée.
Oui, schéma idéal pour les équipes de sprinteurs, sauf qu'elles sont toutes au même niveau et qu'il y a bien un moment, il va falloir que l'explication ait lieu et qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on arrive sur un sprint où tous les équipiers sont frais. Là, c'est beaucoup plus nerveux, ça frotte davantage et surtout, vous n'avez pas de sprinteurs qui se trouvent désunis, enfin, ou du moins déshabillés d'équipiers relativement loin de l'arrivée. Donc, ça va frotter vraiment de façon sans doute très dangereuse sur le dernier kilomètre et dans les deux derniers virages.
Et le dernier escapé de l'échappée du jour s'appelle Juan Antonio Flecha, espagnol, âgé de 35 ans. C'est son 10e Tour de France et rappelez-vous, il avait remporté l'étape de Toulouse il y a exactement 10 ans. Juan Antonio Flecha qui vient d'attaquer à l'avant. Il compte 10 secondes d'avance sur le peloton qui se régale aujourd'hui, qui joue une partition millimétrée. 12 km de l'arrivée, Flecha a 10 secondes d'avance et il est le seul rescapé de l'échappée du jour.
Allez, on se retrouve dans un instant pour le final. Les 10 derniers kilomètres de cette étape et probablement une arrivée au sprint massif. Cavendish, Greipel, Kittel ou encore Sagan sont en train de préparer leurs cuisses pour le sprint. À tout de suite.
Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes très précisément à 10 km de l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France. 10 km pour l'homme de tête, Flecha.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Juan Antonio Flecha, dernier survivant de l'échappée matinale. Ils étaient 5 tout à l'heure. Il est le dernier survivant. Et il réussit tout de même à reprendre un peu d'avance sur l'avant-garde du peloton, Fred.
Oui, Juan Antonio Flecha, coureur expérimenté qui a su conduire l'échappée pendant près de 210 km maintenant. Juan Antonio Flecha, 35 ans, passé sous casaque, vacances soleil il y a 2 ans. Lui, l'ancien coureur de l'équipe Ibanesto, de l'équipe Rabobank également, spécialiste des classiques et qui trouve ici avec cette étape en direction de Tours un faux air de classique des feuilles mortes. Lui, le spécialiste des courses pavées comme le Tour des Flandres qu'il a terminé 3 fois à la 3e place, spécialiste également de Paris-Roubaix. Il a terminé à la 8e place cette année après avoir connu le podium sur l'Enfer du Nord. Juan Antonio Flecha, 35 ans, vainqueur d'une étape sur le Tour de France à Toulouse il y a 10 ans et qui compte 18 secondes. Il a réussi à accroître un peu son avance dans les derniers kilomètres. 18 secondes sur un peloton lancé à ses trousses à 9 km de l'arrivée. À l'avant-garde du peloton, on trouve les Orica Greenedge du sprinter australien Matthew Goss, parfaitement organisé. Au milieu de la chaussée, les Saxo Tinkoff avec Alberto Contador en 5e position. Et puis à gauche, on aperçoit les maillots bleus de la FDJ.fr. Nasser Bouhanni n'est plus là depuis l'étape de Montpellier. Mais William William Bonnet après sa 5e place à Saint-Malo avant-hier, apparemment a su remobiliser les troupes.
Voilà, William Bonnet dont Marc Madio parle avec beaucoup d'affection. Il dit que c'est un sacré coursier.
Ah oui.
Il s'est complètement dépouillé pour se mettre au service de Thibaut Pinot l'autre jour lorsque Thibaut était en difficulté dans les étapes des Pyrénées. Il est dithyrambique sur son coureur, William Bonnet, qui a une belle petite pointe de vitesse. De là, Cyril, à se mêler à la bagarre des rois et des seigneurs du sprint, ça semble quand même un peu difficile, mais une place d'honneur, pourquoi pas.
Bien, à Saint-Malo, il prend tout simplement la 5e place en n'étant pas emmené du tout, en se battant tout seul au milieu de la mêlée, évitant d'ailleurs la chute de Tom Vellers. Non, il va très vite, il est quand même un petit peu limité par rapport aux grands sprinters, mais il fait partie des coureurs qui peuvent, se trouvant dans la, j'ai presque envie de dire, dans la bonne bordure, dans la bonne roue qui remonte, eh bien venir faire une nouvelle fois une place d'honneur. Et vous savez que le Tour n'est pas arrivé à Tours depuis 2005 et que Fletcher avait pris la 17e place en 2005 ici à Tours, étape gagnée par Tom Bonnen.
Les archives incroyables, les archives du druide, ça c'est incroyable.
Et le dernier vainqueur effectivement s'appelle Bonnen. Bonnen, ce n'est pas si loin de Bonnet. Et si William Bonnet créait la sensation tout à l'heure et remportait la première étape tricolore sur ce 100e Tour de France.
Une petite stat, Lucho, pour nous divertir comme ça, non?
Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise?
Oh, je sais pas, une petite stat. Tu peux nous sortir une stat de tes archives.
je me rappelle plus quand est-ce que j'ai fait une étape à Tours.
Bon, Thierry Marie l'avait également emporté à Tours, mais c'était beaucoup plus tôt, en sortant à 1,5 km de l'arrivée. Il avait résisté au peloton.
Ah, oui, non, mais toi, dès que c'est au sprint, ça t'intéresse pas.
Mais Lucho est quand même celui qui voyait le mieux le sprint, parce que les sprinters, les voient pas, ils sont au milieu. Mais lui, où il était placé, il voyait tout. C'est pour ça qu'il avait peur.
Je prenais le vent, comme ça, moi j'étais sûr de pas tomber.
Incroyable quand même, Fred. Cette équipe de la FDJ.fr, je le dis bien depuis le début, je me suis fait reprendre par Marc Madio une fois depuis, vous avez vu, c'est impeccable. Cette équipe de la FDJ est devenue une véritable équipe de sprinteurs. Boigny, on en a parlé, William Bonnet, c'est pas mal. Et puis il y a évidemment la petite pépite et qui pour l'instant est encore en formation et qui n'a pas encore disputé le Tour de France. C'est Arnaud Démare qui lui aussi est annoncé comme l'un des futurs grands du sprint, hein, Fred.
Oui, bien sûr, on commence à avoir des automatismes. Deux méga sprinteurs, Boigny et Démare, ça aide effectivement à constituer un train sur le modèle d'une équipe comme Omega Pharma qui a tout fait pour emmener dans les meilleures conditions Mark Cavendish. Un train, c'est vrai que depuis plusieurs années c'est indispensable, à tel point que Mark Cavendish a poussé ses dirigeants d'Omega Pharma à recruter ces derniers jours Mark Renshaw, son ancien équipier au sein de la formation Aeroad notamment, connu pour son célèbre coup de casque il y a quelques années sur les routes du Tour de France, tout ça pour protéger son cher Cavendish. Et bien Marc Renshaw qui avait décidé de rester chez Rabobank, devenu Blanco, devenu Belkin, pour voler de ses propres ailes, a bien compris qu'il lui serait plus profitable de rejoindre son meilleur ami Mark Cavendish, son meilleur coéquipier en tout cas. Ces deux-là ont des automatismes, et les automatismes, ils sont en train d'arriver chez FDJ.fr, où cette année effectivement on a recruté par exemple le Brésilien Murilo Fischer, spécialiste des lancements, on va dire un lanceur professionnel, ce Brésilien. Effectivement, on sait bientôt tout faire dans cette équipe française.
Échappée terminée, Juan Antonio Fletcher rattrapé à l'instant même par l'avant-garde du peloton, toujours emmené par les coéquipiers d'Alberto Contador de la formation Saxo. On se dirige donc maintenant tout droit à 6 km de l'arrivée vers un sprint massif. Alberto Contador va-t-il se mêler au sprint? Non, ne vous inquiétez pas, il va vite se ranger tout à l'heure lorsque nous serons dans les rues de Tours, lorsqu'on aura passé les 3 km. Mais c'est vrai que les équipes de sprinteurs sont dans un deuxième rideau en quelque sorte, Fred.
Ouais, effectivement, on a longé le château d'Azel Rideau et effectivement les rideaux se multiplient à l'avant du peloton. En première ligne, les Saxo Tinkoff mènent toujours la danse sous les yeux de l'équipe Orica Green Edge en deuxième rideau sur la droite de la route. À gauche, on aperçoit les Lotto Bilisol d'André Greipel. Dans la roue des Saxo Tinkoff, William Bonnet qui doit bien se demander ce qu'il fait là dans la roue d'Alberto Contador à 5 km de l'arrivée. Derrière, en troisième rideau, on a les Argos Shimano de Marcel Kittel. Et puis actuellement, à la hauteur des Argos, sur la droite, on a 6 équipiers de Mark Cavendish, les coureurs de l'équipe Omega Pharma, qui remontent bien gentiment Mark Cavendish. Chat et chaud des craint l'eau froide. Et c'est vrai que les Omega, qui se sont un peu troués lors des étapes pour sprinteurs depuis le début de ce Tour de France, notamment vers Saint-Malo, où Mark Cavendish était particulièrement isolé dans le final,
Bernal semble avoir tiré les leçons. Ils jouent un peu sur du velours. Ils ont remporté l'étape hier avec Tony Martin. Ils ont une victoire au sprint à l'actif de Mark Cavendish. Et cette fois, ils ont décidé de jouer les observateurs pour emmener au mieux dans le final leur bolide de Manxman, le sprinter de l'île de Man. Mark Cavendish, qui a bientôt 28 ans, va viser sa 25e victoire. Attention, chute sur un rond-point qui tournait à droite. C'est peut-être Simon Gerrans, en tout cas un coureur de l'équipe Orica Greenwich, qui a chuté sur une plaque d'huile, semble-t-il, en tête, en tête du peloton. C'est le premier coureur du peloton lancé à 4 km 500 de l'arrivée. C'est peut-être Lancaster. On va vérifier ça. En tout cas, c'est un équipier de l'équipe Orica Greenwich. Ce n'est pas un prétendant à la victoire dont la roue avant a chassé. Pas de bobo pour ce coureur qui s'est relevé très rapidement. Attention, messieurs, ça ne frotte pas encore, mais ça glisse. Il n'a pas plu depuis longtemps et les plaques d'huile sont en train de remonter sur les ronds-points.
4 km de l'arrivée, le peloton qui vient de franchir le Cher et qui se dirige directement vers Tours. Vous le savez, l'arrivée ne sera pas avenue de Gramont comme cela se fait habituellement depuis des années pour Paris-Tours, mais dans les faubourgs de Tours. 4 km de l'arrivée et toujours la formation Orica qui emmène son leader, toujours également les
Oméga,
Mark Cavendish, les Oméga, et dans un deuxième rideau la formation FDJ.fr, peut-être pour William Bonnet. Pour l'instant, les leaders du sprint sont bien à l'abri dans le peloton.
Tout le monde est là en premier rideau et en première position, les coéquipiers de Mark Cavendish, Sylvain Chavanel, tout dedans dehors, qui emmène le peloton, qui est en train de prendre une allure en file indienne. En deuxième position, le maillot blanc de meilleur jeune du Tour, Michal Kwiatkowski, le Polonais. Ils sont encore 5 coéquipiers pour emmener Mark Cavendish à hauteur du sprinter britannique. On aperçoit les maillots vert fluo de l'équipe Cannondale à bientôt 3 km de l'arrivée. Ce sont les Omega qui prennent en main les opérations. Ils ont joué les observateurs dans les 30 derniers kilomètres avant l'arrivée. Les Argos, les maillots blancs de Marcel Kittel, sont en train de revenir à hauteur. Ça y est, on n'est plus du tout dans une conduite longiligne, rectiligne et sage du peloton. À 3 km de l'arrivée, ça frotte. À droite, les Omega. À gauche, les Argos. La lutte des sprinteurs a bel et bien commencé.
Et il y a du mouvement dans son peloton. Il y a des vagues dans le peloton et on voit le maillot jaune de Chris Froome qui tente de se mettre sur le côté gauche, qui évite les vagues. C'est évidemment un moment très dangereux, Cyril, lorsque le peloton arrive comme ça, lancé vers une arrivée au sprint, et on voit que les leaders se mettent vraiment dans la bonne position pour éviter d'être pris dans des chutes, mais on ne sait pas où est la
bonne chute. D'ailleurs, une grosse chute vient d'avoir lieu
avec beaucoup de coureurs impliqués. Une chute qui est intervenue à la hauteur de la 20e position. Pas de maillot distinctif, sinon celui de champion du monde de Philippe Gilbert, qui est arrêté. C'est tombé très fort. C'est un coureur, semble-t-il, de l'équipe Vacances Soleil, qui a peut-être emmené un leader. On va écouter. Le maillot jaune n'a pas été pris.
La formation Sky aussi qui est tombée. Il y a beaucoup de monde à terre. Et c'est un enchevêtrement de vélos. Il y a des hommes qui restent à terre. Un coureur de la formation Lotto Bellisol qui a du mal à se relever. Mais il y a un enchevêtrement de vélos. C'est incroyable. C'est terrible.
Boasson Hagen a été pris dans la chute, le coéquipier de Christopher Froome. Il y a des coureurs qui restent au sol. On avait franchi la banderole des 3 km, me semble-t-il. Donc,
les coureurs
impliqués n'auront aucun retard sur la ligne d'arrivée, mais des bobos, très probablement. On fera les comptes sur la ligne. On est à 1 500 km de l'arrivée et Mark Cavendish compte encore 3 équipiers, avec Dan Martin, avec Gerd Stegmans également, avec Niki Terpstra peut-être. En tout cas, 3 équipiers pour Cavendish, 2 pour Marcel Kittel. Kittel et Cavendish qui jouent des coudes, avec dans la roue de Marcel Kittel le sprinter Alexander Kristoff. Il y a là également le maillot vert de Peter Sagan en embuscade. Je ne vois pas André Greipel, le champion d'Allemagne de l'équipe Lotto Bellisol.
Apparemment, je crois qu'il est dans la chute.
Il a été pris ou au moins retardé dans la chute. Greipel ne jouera pas pour une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France.
La flamme rouge du dernier kilomètre, encore
Intégral
mille mètres.
Tour, la flamme rouge.
Voilà les coéquipiers de Marcel Kittel qui sont en train de remonter sur le côté gauche de la route. Les coéquipiers de Peter Sagan également. Mark Cavendish est bien placé. Tout le monde est en train de se placer pour le sprint, Fred.
Tout le monde sauf André Greipel, qui ne réalisera pas la passe de 2. Les Argo Shimano sont encore au nombre de 3, à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Encore 2 virages à négocier. Marcel Kittel en deuxième position, bien lancé par Tom Wheeler, son équipier chez Argo Shimano. On est à 500 mètres de la ligne. Bientôt un ultime virage à droite à négocier parfaitement. En 1 Wheeler, en 2 Kittel, et en 3 eh bien Gerd Stegmans qui va lancer pour Mark Cavendish. Cavendish parfaitement lancé par le géant hollandais. Mark Cavendish qui va prendre les devants à 300 mètres de la ligne. Il va déboîter dans sa roue. Marcel Kittel en 3. Peter Sagan, le maillot vert. Mark Cavendish qui est lancé tel une balle.
Cavendish, ça va être terrible ça.
Parfaitement profilé. Mark Cavendish qui va remporter probablement cette victoire à Tours. Encore une photo finish pour départager
Mark Cavendish
de Marcel Kittel. Ça fera trois fois que Marcel Kittel vient sauter tout le monde. Si d'aventure Marcel Kittel.
Kittel qui l'emporte. Il me semble qu'il passe bien, oui, Kittel. Il passe de quelques centimètres. Bien dans l'abri du cave. Et il a débordé sur les 50 derniers mètres. Et Cavendish n'a pas pu finir. Ouais, Cavendish qui s'est retrouvé trop tôt dans le vent, alors que Kittel était bien à l'abri derrière lui. Et les deux hommes qui jettent leur vélo sur la ligne d'arrivée. On n'a pas eu encore la photo finish officielle, Cyril.
Pour moi, c'est officiel. C'est troisième Sagan. Hein.
Ouais. Avec Peter Sagan qui termine troisième. Une fois une place d'honneur pour Peter Sagan. Donc, a priori, victoire.
Voilà, Greipel qui franchit la ligne actuellement. Il était donc bien dans la chute.
Ouais. André Greipel, le gorille de Rostock, qui a donc été pris dans la chute. La victoire, on va avoir confirmation dans quelques instants car il y a photo finish et pour l'instant aucun classement officiel ne nous est communiqué. Donc
le regard de Cavendish vers
significatif. Terrible pour Cavendish, hein, qui va de regret en regret et de ouais, on voit les
attention, ce n'est pas Kittel.
Ah oui, non.
Non, c'est Degen Kolb.
C'est Degen Kolb
qui a bien compris que son coéquipier avait franchi la ligne.
Attardé en ce moment, les bras levés, deux Argo Shimano semblent vainqueurs aujourd'hui. Kittel qui a devancé sur la ligne d'arrivée pour quelques millimètres, a priori Mark Cavendish et Peter Sagan, et son coéquipier chez Argos, John Degen Kolb, qui bien attardé manifeste sa joie sur la ligne d'arrivée. Il fait quasiment carton plein Marcel Kittel, qui effectivement, et Cyril avait très bien fait de le souligner tout à l'heure dans le direct, est un vainqueur en série, lui qui avait remporté 4 étapes sur les 4 jours de Dunkerque en 2011, 4 étapes sur le Tour de Pologne. Il est parfaitement lancé pour réaliser la passe de 4 également sur le Tour de France. Troisième victoire d'étape pour le jeune sprinter allemand âgé de 25 ans qui est en train de mater la concurrence et qui est en train de devancer sur la ligne d'arrivée et au statut de meilleur sprinter du monde des coureurs comme Mark Cavendish ou André Greipel. Kittel, dont on parlait tout à l'heure pendant le direct avec Pierre-Yves Leroux, qui amène un vrai air frais du sang neuf au sprint mondial et au cyclisme allemand.
Cinquième victoire d'étape pour les Allemands depuis le début de ce tour. On en parlait tout à l'heure, on était à 4, voilà à 5. Hein, nous voilà rendus à 5.
C'est le Tour d'Allemagne, quasiment.
Ouais.
Un sprint perturbé, on le rappelle, par une chute qui est intervenue à moins de 3 km de l'arrivée. Une chute qui a impliqué une quinzaine de coureurs à 20 km, à 3 km de l'arrivée. Et avec effectivement une chute qui est intervenue à hauteur de la 20e place du peloton.
Voilà, 17h sur RMC. Les prochaines infos, on les aura tout à l'heure à 18h. Oui, Cyril. Oui,
je suis quand même assez surpris des risques que prend Chris Froome.
Termine 14.
Alors que la chute avait eu lieu, donc il avait juste à accompagner. Il est venu frotter un moment dans les 12, 13, 14e position, à un point qu'il a failli aller par terre. D'ailleurs, il s'est un petit peu fâché. Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec le maillot jaune dans les 15 premiers du peloton alors qu'on est à 1,5 km de l'arrivée.
Vigilance.
Bon, là, on n'est plus vigilant.
Pour ne pas être pris dans une deuxième chute, peut-être.
Il n'y a pas besoin, il y a la première.
C'est vrai.
Peut-être vise-t-il le maillot vert, sait-on jamais.
Peut-être non, mais c'est, là, j'avoue que si je suis son directeur sportif,
Cyril,
il se prend une avoine ce soir.
On est avec Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée avec un champion du monde, me semble-t-il.
Ouais, Philippe Gilbert.
Ça sera certainement plus plus de sélection ce jour-là, ouais.
Merci Philippe.
Philippe, juste un mot, Philippe, on est en direct sur RMC. Comment vous avez vécu cette fin d'étape? C'était encore très nerveux. Est-ce que vous avez réussi à échapper à la chute?
Ouais, extrêmement nerveux. J'étais juste derrière, donc j'ai pu m'arrêter. Le coureur derrière moi ne s'est pas arrêté. Il est rentré dans le tas de coureurs, donc c'était assez impressionnant. Le bruit extrêmement violent, mais bon, heureusement j'ai pu éviter. Et j'ai vu des coins assez lourdement touchés dans cette chute, comme Boissenhagen et des coins de l'auto aussi. Donc j'espère qu'ils n'auront rien de cassé et qu'ils pourront prendre le départ demain. Mais on voit encore une étape très nerveuse et on voit que beaucoup de sprinteurs prennent énormément de risques.
Quel bilan vous tirez de cette première partie du Tour de France à titre personnel?
Pour moi, assez difficile. Au début, on avait essayé de miser sur Cadel Evans pour le classement général. Bon, il s'est raté dans les Pyrénées. Donc, il est pour le moment 14e, mais très loin, à plus de 6 minutes. Donc, ça va être difficile. Mais maintenant, je vais essayer de me concentrer sur une étape. Et si ça peut sauver le Tour, ce serait bien. Ouais.
Voilà, puis on imagine que vous êtes bien encouragé avec ce maillot de champion du monde au bord des routes.
Merci. Oui, bien sûr. Ouais. C'est super.
Juste un dernier mot, Philippe. Oui, j'écoute la question, dites-moi.
Oui, qu'est-ce qu'on ressent quand on évite une chute comme ça? Est-ce qu'on a la trouille après pendant quelques minutes?
Est-ce qu'on a les jambes coupées un peu, Philippe, quand on entend ce bruit derrière? Est-ce que ça fait peur et...
Bon, disons qu'on est habitué, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et puis, on pense qu'une chose dans ce cas-là, c'est de freiner, d'éviter. Et surtout que le coureur derrière a le même réflexe parce qu'on est à moins d'un mètre l'un de l'autre. Donc, si le coureur derrière n'a pas le même réflexe, ça veut dire qu'il vous emmène dans la chute aussi. Donc, vous avez peur parce qu'il y a une chute qui arrive devant, mais vous avez peur aussi d'être embouti par derrière. Donc, je veux dire, c'est toujours un moment très délicat à passer.
Les auto-tamponneuses. Merci, Philippe, qui repart au bus avec... Beaucoup de monde derrière la ligne. On est au milieu des bus et il y a le public également qui est présent. On va se promener là au milieu des bus et puis vous permettre d'avoir un certain nombre de réactions pendant les minutes qui viennent.
Christophe, oui. J'ai vu Boissenhagen passer. Visiblement, il semble touché à l'épaule gauche. Il y a également Seeberg qui finissait avec une seule jambe. Et on a Cyril Lemoine qui était également dans la chute. Et Arashiro aussi qui me semble touché.
On prendra des nouvelles de Cyril Lemoine, le coureur de l'équipe Sojasun, en compagnie de Pierre-Yves tout à l'heure à 19h20, quand Pierre-Yves sera à l'hôtel des Sojasun avec Stéphane Hollot, notamment avec Julien Simon également. Pour revenir sur les propos de Philippe Gilbert, on rappelle la victoire de Kittel devant Cavendish et Sagan ici à Tours. Il y a une chute, Cyril, Luc, même quand on n'est pas coureur cycliste de haut niveau, on a tous connu cette expérience d'une chute à vélo. C'est arrivé à tout le monde, à n'importe quel enfant. On se voit tous tomber au ralenti. Est-ce que chez les pros c'est pareil? Est-ce qu'on a la même sensation même au bout de sa 20e chute? Est-ce que l'on se fait à une gamelle? Est-ce qu'on s'habitue?
On s'habitue, non, on essaye de ne pas s'habituer, mais il y a deux choses dans la chute. Il y a la première qui vous arrive sans que vous la voyez arriver, c'est-à-dire lorsque vous êtes complètement en aveugle et vous n'avez pas le temps de vous protéger. Enfin, vos réflexes, vos instincts de conservation n'ont pas le temps de se mettre en place. Pas, quoi, ouais. Et il y a celle que vous voyez arriver dans les 2 ou 3 millièmes de seconde avant, et là.
C'est au ralenti.
Vous la voyez au ralenti, c'est-à-dire que vous allez volontairement dedans, c'est-à-dire que vous l'acceptez. On se blesse en règle générale quand on n'accepte pas la chute, quand on l'accepte et qu'on part et qu'on va essayer d'aller faire l'œuf et que tous nos instincts, tous nos réflexes sont en place, on arrive à être rarement, enfin blessé, si, un petit peu, mais pas gravement. Alors que quand on ne la voit pas, là ça fait très mal, entre autres, c'est quand on percute. Quoi.
Ouais. Et quand on fait l'œuf, quand on voit un enchevêtrement de vélo et de corps comme ça, sur le devant de sa roue avant, comment faire pour éviter essayer d'avoir le moins mal possible?
On va dedans, on l'accepte, puisqu'elle est là, elle est présente, on peut pas l'éviter, donc il faut partir dedans, il faut pas la refuser, il faut y aller
sans pour autant
trahir. T'as pas le choix d'y aller, hein, comme celle de dans le final là, t'es obligé.
Oui, mais
il faut pas la refuser.
Ouais. Sans pour autant crier, ouais, super, une chute, une gamelle, j'y vais.
Non, mais par contre, ce qui était dangereux dans cette chute-là, c'est qu'il y a eu un enchevêtrement de vélo, les coureurs sont tombés les uns sur les autres, et ce qui peut éventuellement faire mal, ce sont les vélos.
Ouais.
Tu peux chuter sur
un coup de pédalier sur la cuisse, c'est pas sympa.
Ouais, les dents du pédalier, ou la pointe du frein, ou n'importe quoi, ça peut vraiment faire mal.
Victoire de Marcel Kittel, le jeune et beau sprinter allemand de l'équipe Argo Shimano qui remporte sa 3e étape depuis le départ de ce Tour de France. C'est lui le meilleur sprinter du Tour, même s'il ne porte pas le maillot vert. Pierre qui reste la propriété de Peter Sagan, l'Allemand de l'équipe Argo Shimano qui devance pour une demi-roue à peine Mark Cavendish qui a lancé de trop loin, qui s'est exposé trop tôt dans ce sprint. Mark Cavendish qui fait deuxième, Peter Sagan est troisième. Voilà le podium du jour, pas de changement au classement général. Le maillot jaune Christopher Froome particulièrement vigilant dans les 20 derniers kilomètres avec son équipe Sky garde la tête du classement général. Le maillot à poids toujours sur les épaules de Pierre Roland, le blanc de meilleur jeune sur celle de Michal Kwiatkowski. Peter Sagan est toujours maillot vert évidemment, et on parlait de Christopher Froome. Vous savez que les contrôles sont ciblés, les contrôles antidopage sont particulièrement ciblés sur ce Tour de France. Christopher Froome qui devra passer par la case pipi dans quelques instants pour être contrôlé au même titre que son coéquipier de l'équipe Sky, Richie Porte. Il y a également l'Espagnol de la Movistar, Castro Viejo, et le vainqueur du jour. Information communiquée par Pierre-Yves Leroux derrière la ligne.
Marcel Kittel, serial winner sur les routes de ce Tour de France 2013. Troisième victoire d'étape pour le jeune sprinter allemand et cinquième victoire pour les Allemands, alors que les Français sont toujours à la recherche d'un premier bouquet depuis le départ de ce Tour de France. Pourvu qu'on en ait une, simplement une, ce serait déjà pas mal. Mais pour l'instant, c'est mal barré pour les Français qui ont bien du mal cette année à montrer tout leur talent. L'année dernière, on avait été gâtés avec 4 victoires d'étape. Pour l'instant, 0. Et le premier Français, on vous le rappelle, c'est Jean-Christophe Perrault. Au classement général, il est 10e. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de Cavendish battu. Et si Cavendish n'était plus le meilleur sprinter au monde, hein, ça ferait du mal à Virginie Fulpa notamment. Mais on en parle dans un instant sur l'antenne d'RMC, l'Intégral Tour, jusqu'à 18h. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour.